Bon, alors bonjour à tous. J'ai le grand plaisir d'accueillir Anne-Hélène Kliche, que vous connaissez. Elle est professeure au département d'études littéraires de l'UQAM. Elle est spécialiste de la psychanalyse qu'elle associe dans ses recherches à la Bible, comme l'illustrent entre autres ses deux derniers essais, Poétique du Messie, l'origine juive en souffrance, prix Ségal 2008, et son plus récent essai, Tu ne feras pas d'image, Duras, Sarraute, Guyota. Mais ce n'est pas, et des tas d'autres essais, un notamment auquel je suis moi particulièrement attachée, le premier, Le désir du roman, sur Aquin et du charme, et toutes sortes d'autres choses, mais ce n'est pas comme professeur que je l'ai invitée, mais comme écrivaine, puisque Anne-Hélène poursuit une œuvre de romancière, œuvre assez rare, je regardais finalement, et exigeante. La Pisseuse, son premier roman en 92, a obtenu le Grand Prix de la Ville de Montréal. Elle a aussi écrit La Sainte Famille en 1994. Mon frère Ésaü, dont vous aviez, pour les gens du séminaire, des extraits que je vous ai donnés, qui a été finaliste du Grand Prix de la Ville de Montréal, et le dernier que nous avons lu il y a 15 jours dans le séminaire.
J'en oublie un, qui est Rien et autres souvenirs.
Absolument.
Juste rien, avant Ésaü.
Rien et autres souvenirs, qui est de
98.
Bon, mais j'en oublie un. Désolée. Et Jonas de mémoire, donc, 2014, que nous avons lu dans le séminaire il y a 2 semaines. Et c'est, nous, on a lu Jonas de mémoire dans la perspective d'une réflexion sur le lieu, sur l'écriture du lieu. Et donc, c'est autour de ces questions qu'on aimerait entendre. Alors, je laisse la parole à Anne-Hélène. Merci beaucoup d'être là.
Merci, bonjour à tous et à toutes. Évidemment, je vais commencer par remercier ma chère Elisabeth, qui est une lectrice fidèle et qui me fait un grand honneur de m'inviter aujourd'hui pour vous parler de Jonas. C'est très rare que je parle jamais de mes romans, elle est dans le cadre universitaire. Donc, je suis vraiment très, à la fois émue, troublée, ravie en même temps, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur l'écriture, mon écriture. Je parle beaucoup dans mes cours, évidemment, de l'écriture des écrivains que je travaille. Mais comme je suis pas schizophrène, ce que je travaille dans mes séminaires, mes cours concernant la psychanalyse, la Bible, l'écriture des écrivains, est tout à fait lié à ce que je fais par ailleurs comme travail d'écrivaine. Et c'est un petit peu comme ça que je vais présenter mon travail. En fait, j'ai choisi de... Puisque je savais que c'est rare qu'on parle à des gens qui ont lu le roman. Habituellement, on fait dans des lancements ou dans des rencontres, parfois même avec des journalistes, des entretiens étranges où la personne qui nous reçoit n'a pas nécessairement lu le livre dont on doit parler. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un privilège de parler devant des lecteurs et des lectrices. Et donc, je vais vous dire un petit peu comment j'ai organisé ça pour, puisque vous avez travaillé et lu le texte, pour raconter un petit peu le processus de transposition du territoire, parce qu'au fond, c'est la question qui nous intéresse. Donc, alors, quand j'ai donné mon titre à Elisabeth, là où c'était « Je dois advenir », elle m'a dit « Ah, c'est beau ça ». Moi, c'était un peu une boutade, puisque c'est une phrase très célèbre de Freud. Dans les conférences, vous allez voir, je passe de Freud à Proust, à Lacan, bref, je paie un peu mes dettes aussi à l'héritage que j'ai reçu sur le plan intellectuel et qui nourrit beaucoup mon écriture. Donc, « Là où c'était, je dois advenir », c'est une phrase traduite par Lacan, ainsi, que Freud note pour décrire un peu le processus de la psychanalyse. Hein? Alors, il disait « ça parle dans le rêve », le « ça », donc « là où c'était, sans moi, je dois comme sujet advenir ». Et au fond, après lui avoir donné ce titre qui était un peu une boutade en me disant « bon, un peu étrange de dire ça », quand même a dit « c'est beau », j'ai fait « mais c'est vrai que c'est beau ». Et je suis retournée au texte de Freud pour me dire de quoi il parlait là-dedans. Alors, je vais pas vous parler du texte de Freud, bien sûr, mais la première phrase de son texte, je me suis dit « c'est formidable, les coïncidences », il écrit « Le refoulé est pour moi une terre étrangère interne, alors que la réalité est, permettez-moi cette expression inhabituelle, dit Freud, une terre étrangère externe ». Et donc, je me suis dit « mais c'est formidable, puisqu'au fond, l'Abitibi est une terre étrangère, à la fois interne et externe, donc je vais partir de ça. Donc, je vais éclairer un petit peu mon titre en fonction de cette espèce de paradoxe qui consiste à parler d'un territoire, effectivement, d'où je viens, mais où je n'étais pas. C'est un peu ce qui... Et que l'écriture m'a fait, d'une certaine manière, rejoindre sur un certain plan. Je veux parler aussi de l'Abitibi comme ce qui ne cesse pas de s'écrire, c'est-à-dire que depuis que j'écris, même dès la pisseuse, mais c'était très, très difficile, l'Abitibi arrive immédiatement dans l'imaginaire, l'Abitibi arrive dans l'écriture, et donc c'est quelque chose qui, manifestement, fait partie du processus. Je vais parler des noms de pays, en citant un peu Proust, là, je reprends son titre, donc comment la toponymie ressuscite effectivement, bien sûr, la mémoire, mais aussi un territoire très singulier. Et puis l'Abitibi comme territoire transmis. Et là, j'éclairerai ce que je veux dire, puisque là où c'était, je n'étais pas complètement. L'Abitibi est aussi un territoire qui est transmis par mes parents. C'est un territoire d'immigration dans les années 30. Mes parents y arrivent dans les années 50. Et moi, j'arrive évidemment après eux, mais c'est eux les vrais immigrés, si on peut dire, qui nous ont parlé de l'Abitibi, qu'ils pouvaient comparer à d'autres régions, puisqu'ils venaient de la région de Québec, de la Beauce, donc des vieux pays. Et l'Abitibi a été pour eux un lieu extraordinaire. Je dirais, l'imaginaire abitibien me vient beaucoup des récits de ma mère et de mon père. Donc, ça, c'est intéressant aussi de voir que ce qui revient dans l'écriture, c'est très souvent un territoire en tant qu'il est transmis, c'est-à-dire qu'il est passé déjà par du récit, que je m'approprie comme je peux, bon, etc. Alors voilà, commençons donc par éclairer cette affaire du titre que vous avez sans doute vu passer, non pas sous cette forme-là, mais dans la logique de l'histoire de Jonas, qui, à un moment donné, tard dans sa vie, à peu près vers 58 ans, apprend qu'il a une histoire qu'il n'a pas vécue, mais qui lui vient effectivement d'une famille dont il ignorait tout, et il va découvrir donc ce passé familial qu'il n'a pas expérimenté et qu'il va tenter de rejoindre. Donc, c'est à partir, on pourrait dire, de cet arrimage avec l'histoire de l'autre que la narratrice va trouver une similitude avec son histoire, comme si elle aussi se disait « Moi aussi, j'ai un passé que je n'ai pas vraiment vécu, que je dois conquérir, auquel je dois accéder. » Et donc, cette terre étrangère. Donc, c'est sans doute de ça que je peux parler, c'est-à-dire le territoire de l'enfance comme une terre étrangère interne. Hein, je reprends la formule de Freud, puisqu'au fond, elle était en moi, cette terre étrangère, mais je l'ai créée, inventée, produite à l'extérieur, c'est-à-dire dans le texte. Et là, c'est donc pas une réalité en elle-même qui est d'une certaine manière décrite dans mes livres, mais bien une réalité sortie de moi, engendrée, un territoire qui est devenu réalité, une terre étrangère externe, alors qu'avant de l'écrire, et là je vais le dire peut-être de manière excessive, mais c'est absolument vrai, avant d'écrire sur l'Abitibi, c'était un territoire qui n'était pas reconnu, même si, comme s'il n'avait même pas été éprouvé, alors qu'évidemment, au moment où j'écris, je vais retrouver énormément de sensations, et des preuves que ce territoire m'a fait vivre, mais le seul, comment dire, la mémoire elle-même toute seule dans le vécu ne me permettait pas de rejoindre donc ces sensations. C'est vraiment au moment où j'extériorise ce paysage en essayant de le nommer qu'il va se mettre à exister. Alors il existe à la fois au passé, vous pouvez comprendre, c'est un paradoxe relatif parce qu'au fond on vit des expériences comme ça, c'est-à-dire brusquement le passé se met à exister. On se dit, bien sûr, il existait, mais il n'existait pas tant que je ne l'ai pas fait advenir. Alors, c'est par ça, c'est ce que je veux faire entendre, par là où c'était, je dois, au sens aussi du devoir. Hein, c'est mon devoir de venir et que j'advienne aussi de cela. Au fond, c'est déjà beaucoup de reconnaître d'où l'on vient, mais il faut vraiment travailler pour advenir de ce lieu précis, se faire sujet de la parole de cela. Je dis ça parce que l'Abitibi, c'est un territoire d'où on voulait partir. Et donc, venir quand on était jeune, ceux qui viennent de région, d'ailleurs à Montréal, quand on arrive, il y a plein de gens qui viennent des régions, donc je pense pas que je parle d'un truc très mystérieux. Mais bref, sur le plan culturel, sur le plan de toutes sortes d'aspects, On se dit, qu'est-ce qu'on a hâte de sortir d'ici, bon, etc. Et puis, l'Abitibi, contrairement à certains vieux territoires, moi, je disais que mes parents venaient de la Beauce. Eh bien, quand on allait dans la Beauce, c'est que les gens parlaient de Québec, c'était à mille lieues de toute terre accessible. Aller à Québec, c'était vraiment l'événement. Alors qu'en Abitibi, tout le monde était branché sur Montréal. Malgré les 500 kilomètres qui nous séparaient, aller à Montréal faisait partie, même des gens pas nécessairement fortunés, ça faisait partie des... C'est-à-dire, on avait comme une espèce de cordon ombilical qui faisait qu'on n'était pas complètement isolé. Et comme c'était un territoire d'immigration réelle, c'est-à-dire très cosmopolite du fait... J'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais vous l'avez vu un peu dans le roman, c'est-à-dire du fait que ça a été dans les années 30... Val-d'Or est fondé en 39. 39 n'étant pas une date... insignifiante. Beaucoup d'immigrants européens arrivent ici et donc on les envoie travailler dans les mines. Il y a les mines d'or, il y a les mines de cuivre à Rouen. Et il y avait eu aussi, il y a eu pendant toutes ces années, surtout les années 60, 70, 50, un processus qui visait à développer l'agriculture. On avait dit ça sera le grenier du Québec. Et on a donné des terres à des gens qui n'avaient jamais été agriculteurs. Et voilà, ça a donné une catastrophe, c'est-à-dire on a déboisé, on a ouvert des champs de patates, les gens n'avaient pas d'expérience. Bref, on disait, il n'y a rien qui pousse en Abitibi, mais les Polonais, les Italiens qui arrivaient, eux, bizarrement, ça poussait dans leur terrain. Les tomates, il y avait même un Polonais, je me rappelle, qui avait ses raisins. Alors, on suppose qu'il partait quand même dans son sous-sol l'hiver, mais tout à coup, il y avait des grappes de raisins dans sa cour, alors chez nous, on plantait un arbre et on attendait... 100 ans. Alors, tout ça pour dire qu'il y avait donc un désir de sortir de ce pays. Et donc, quand je dis il fallait assumer de venir de cela, c'était aussi un travail qui disait il faut reconnaître d'où je viens. Et puis, évidemment, c'est un territoire perdu. Ce territoire s'est mis beaucoup à exister lorsque je l'ai quitté. Puisque j'écris, moi j'ai quitté l'Abitibi pour venir étudier ici à Montréal à 17 ans. Mais je retournais longtemps. Ensuite, mes parents sont arrivés ici dans les années 80. Ils ont conservé le chalet. Donc, on retournait en Abitibi, mais c'était déjà vraiment de plus en plus un territoire qui n'était... Puis, au fond, je dirais qui n'était plus visité, ou en tout cas, on n'y retournait pas tant que ça. Mais c'est l'enfance aussi qui était perdue. Et au fond, l'Abitibi, c'est beaucoup le territoire de l'enfance. Voilà. Il y a donc dans mon titre quelque chose qui dit déjà... que je n'étais pas là d'où pourtant je suis sortie. C'est important parce que Jonas, donc ce roman sur la mémoire, est un roman qui raconte ce que je disais tout à l'heure, c'est l'histoire d'un autre qui permet d'accrocher les mots pour dire sa propre histoire. Jonas est un personnage qui a une histoire vécue, lui aussi, abitibien, et puis un jour il apprend qu'il a un passé, il vient de quelque part d'une histoire non vécue. Et je vais juste lire page 78-79, si vous me permettez, c'est pas très long. Mais c'est tout le jeu où j'essaie de jouer sur... c'est Jonas qui parle. Alors, le procédé de ce roman consistait beaucoup à accueillir cette parole, à tenter de la transmettre. Donc, tout le roman joue sur « c'est une histoire de tous pour tous hein, » et que tout le monde va s'approprier l'histoire de Jonas, à commencer par la narratrice. Que racontait Jonas les mains l'une dans l'autre à propos de cette période dont il veut ou croit retrouver la mémoire et qu'il dit rejoindre, rattrapé, ayant depuis la réception de la lettre différée fait la connaissance des membres de la famille de sa mère. Je parle de la première, l'originaire, celle qui arrive en second lieu dans sa vie et qui est la cause, la matrice d'une sorte d'anéantissement et de résurrection. Que racontait-il concernant justement les membres de cette famille découverte sur le tard, si ce n'est, justement, comme il dit, justement, que cette famille l'a accueilli comme un des siens, alors qu'il cherchait à rejoindre cette place qui est aussi la sienne. Il dit aussi, insiste sur aussi, cette place qui est la sienne, mais qui double l'autre place en la transformant en une place délibérément signifiante, alors qu'elle était pour lui jusque-là une place, pour ainsi dire, naturelle. Il insiste sur naturelle, car notre condition familiale n'a pas de sens particulier. Il veut dire que la famille dans laquelle nous arrivons par naissance ou adoption est aléatoire, non déterminée, certes déterminante, mais avant tout accidentelle, alors que pour Jonas, la famille Perrault est délibérément une famille parmi les nations, volontairement décisivement programmée par sa mère, comme étant par définition extérieure à sa famille, si ce n'est à son peuple, une famille adorable, là n'est pas la question, adoptive certes, mais avant tout étrangère, à tout ce qui précède Jonas, autant dire cette filiation que le hasard lui avait accidentellement attribuée. Et page 46, j'avais cité Kafka, cette phrase magnifique où il dit... alors je dis, Jonas résume, a résumé l'histoire vite, très vite. C'est fait, l'histoire est dite. Ça ressemble à quoi? Le passé se décompose, il faut le recomposer. Il y en a d'autres dans cette galère. Kafka. Il me faut tout acquérir. Non seulement le présent et l'avenir, mais encore le passé, cette chose que tout homme reçoit gratuitement en partage. Cela aussi, je dois l'acquérir, dure besoin. Et au fond, je suis tout à fait identifiée à ça. C'est-à-dire que ce passé n'était pas du tout une donnée avec laquelle, voilà, j'avais qu'à raconter. Comme si le vécu n'avait pas été vraiment vécu, éprouvé, et pourtant. Alors, la narratrice découvre que ce paradoxe la concerne très directement. Elle qui a aussi une histoire, un passé, que pourtant elle ne retrouve que par l'écriture, le retour vers quelque chose qui, bizarrement, est inédit. C'est ça qui fait le paradoxe. Quand on retourne vers quelque chose, c'est qu'on l'a déjà eu, mais là, quelque chose qui n'aurait pas été encore édité, si je puis dire. Il y a donc une réalité d'après-coup, et c'est la symbolisation qui crée le réel. C'est l'écriture qui va produire la réalité. Le vécu va s'éprouver à partir de l'écriture et se donner comme ayant été vécu après coup seulement. C'est moi qui produis des effets. Alors, c'est l'ouverture du livre. Je vais juste lire le paradoxe qui s'ouvre lorsque la narratrice va donc expliquer au parleur, au souffleur, qu'elle veut bien écrire son histoire. Mais est-ce qu'il va la reconnaître? Est-ce que écrire l'histoire consiste simplement à faire passer un vécu dans l'écrit, ou est-ce qu'il ne va pas y avoir transposition, métamorphose, transfiguration, déplacement? Alors elle lui dit, donc, Jonas. Il s'appelle Jonas et débarque avec son histoire comme une blague. L'histoire du gars qui, un jour, un matin, se réveille et s'aperçoit que... Se réveille et voit le monde à l'envers, sans dessus-dessous. Le temps se contracter, s'inverser. L'histoire du gars jeté de l'autre côté du monde, la tête en bas, les pieds en l'air, blague. Qui ne sait plus si ce qu'il est et qu'il ne savait pas être était aussi quand il était ce qu'il a été. Maintenant, l'histoire a eu lieu, s'accomplit, passe, est en train de passer. On va l'écrire. L'écrit va prendre, avaler ça qui a été vécu, supposé l'avoir été. On entend bien une voix, la sienne, pas la sienne. Elle va dire l'histoire et la perdre, la rendre au désert. L'histoire écrite aura été vécue, et l'enfant de l'histoire sera l'enfant du livre, de la vérité du livre. Est-ce que c'est ça qu'il veut, Jonas? Dois-je répéter la question? Il n'y a pas de réponse. Ce qu'il veut est ce qui vient, justement. L'écrit remplace déjà la mémoire, même la mémoire, et l'histoire est dépeuplée, voilà ce que je dis, moi. Donc, l'ouverture du livre dit déjà que le passage à l'écrit va créer quelque chose d'inédit. Alors, le territoire de l'Abitibi est très, très inscrit pour moi dans cette logique, qui est une logique d'après-coup. Et donc, cette formule là où c'était, Freud dit, c'est la formule du destin. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est effectivement quelque chose qui dit bien, je dois advenir, bien sûr comme sujet, mais je ne peux pas advenir de n'importe où. Je ne peux advenir que par rapport à ce que j'ai reçu, vécu, voilà. Et à l'époque où je le vivais, je n'y étais pas. C'est donc ce paradoxe qui m'intéresse. Et c'est là que je situe le territoire abitibien. L'enfance, donc, y est absolument immergée. Alors, ce que j'ai découvert, c'est que le territoire est une matrice où l'on baigne, et c'est quand on en sort qu'il se révèle comme objet, mais comme objet perdu. Et donc, c'est très proustien aussi, hein, mais donc, c'était pas un paradis, moi, que j'avais perdu. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Elisabeth de vous donner quelques extraits d'Ésaü, parce que ce travail sur le territoire, il commence bien avant Jonas. En fait, il commence à la pisseuse. Mais j'y arrivais pas du tout. C'est-à-dire, il y a le train dans la pisseuse. On retrouve le train dans rien, au souvenir. Ce train qui est là, il sera toujours là. Mais à chaque fois que je le reprenais, c'est chaque fois des tentatives pour essayer de rejoindre ça. Et j'ai l'impression de m'y approcher un peu plus chaque fois. La fois où j'ai pris de front la question, c'est avec Ésaü. Et Ésaü, évidemment, c'est la Bible, et c'est un peu deux livres jumeaux, c'est deux personnages bibliques, c'est deux textes qui s'écrivent dans une espèce de contrainte où il y a du texte sous-jacent. Alors Jonas, il y a le texte biblique, Et évidemment, comme je travaille aussi les commentaires talmudiques, ces textes-là s'ouvrent sur une immense bibliothèque de commentaires et d'interprétations. Et l'histoire de Jacob et Ésaü, le fameux plat de lentilles, ça tient sur quelques lignes dans la Bible. Le combat avec l'ange, bon, c'est quand même un petit chapitre, mais les commentaires sont infinis. Et Ésaü, pour la tradition juive, est un personnage qui incarne la violence chrétienne. C'est-à-dire, les chrétiens, vous le savez, se sont inscrits dans la filiation de Jacob, le nouvel Israël, etc. Donc, pour les chrétiens, de l'intériorité du christianisme, on est dans la filiation de Jacob. Mais du point de vue juif, Ésaü, c'est celui qui, venant d'Abraham aussi, incarne la puissance de Rome, l'Empire. Et donc, c'est un personnage violent. Et pour moi, l'Abitibi s'est avéré être la seule manière que j'avais d'incarner un personnage violent. Ça m'a beaucoup intéressée aussi, parce que j'étais pas capable de le faire parler violemment. Chacun ses problèmes. Mais je me disais, parce que écrire la haine, la violence, ou en tout cas la rage, ça peut être très ridicule si on rate notre coup. Bon, et les tentatives que je faisais ne me satisfaisaient pas. Et puis je me suis dit, c'est l'Abitibi, la rage. C'est le froid, c'est l'aridité, c'est le sol. Et tout ce qu'on disait, rien pousse ici. Évidemment, l'été qui était très, très sensuel, du fait que nous avions un chalet au bord d'un lac et que toute la famille se métamorphosait. Moi, je viens d'une famille relativement bourgeoise. Pas relativement, mais bourgeoise comme on l'est au Québec, c'est-à-dire pas nécessairement guindée, mais où la maison était quand même divisée, la chambre des parents était un lieu où on n'entrait pas, où chaque enfant avait son espace. Bon, on arrivait au chalet, c'était complètement ouvert, tout le monde était à moitié nu, tout le monde s'en sauvageait, on regardait les orages sur le lac, et pour un enfant, c'était extraordinaire. Donc, il me reste beaucoup de cette, je pourrais dire, la seule nostalgie que j'ai, c'est pas du tout la ville, c'est l'été. Mais cet été était aussi extrêmement aride du fait des bestioles, c'est-à-dire, je parle des moustiques, parce que les autres, mais l'animalité, les ours, tout ce qu'on vivait donc dans cet espace qui était la nuit absolument obscure, de la forêt. Quand j'étais très, très petite, on entendait les loups. Ils ont remonté après. Il y avait des caribous. Bon. C'est ça, Ésaü. Et donc, c'est là que j'ai commencé. La première version de l'Abitibi qui m'arrive, elle est hostile. C'est vraiment une version hostile. Et que, donc, on retrouve dans mon frère Ésaü. C'était aussi, c'est ce que je notais, c'est-à-dire ce qui est par rapport à l'après-coup, c'est que c'était l'impuissance à parler, l'enfance. J'ai fait un métier de parole, mais c'est pas pour rien. c'est drôle de parler de soi comme ça, mais en fait, on parle d'écriture. C'est-à-dire que la façon dont l'écriture a précédé la parole. Écrire de la poésie très jeune. J'ai fait de la musique, moi, avant de faire des lettres. J'ai fait tout un bac en musique. Et puis, je suis arrivée en lettres. Et puis après, ça a été très vite, mais l'émergence de la parole arrive très tard. Moi, je dis, j'étais muette enfant. Tout le monde me dit, tu parlais constamment. Bon, sûrement. D'ailleurs, on a encore sur mon bulletin, elle bavarde sans cesse. Donc, manifestement, je parlais. Mais parler au sens de parler, c'est-à-dire être capable de nommer les choses et d'exprimer quelque chose, c'était quelque chose qui était, pour moi, très, très difficile. Et donc, Ésaü incarnait ça aussi, c'est-à-dire comment il y a une très, très grande violence quand on est dans cette impuissance à dire. Avec, je me souviens, l'espoir qu'un jour la parole viendrait. Donc, Ésaü, comme Jonas, c'est toujours évidemment des morceaux de soi. Hein. Bon. Et donc, l'Abitibi était ce territoire donc du mutisme. En fait, on comprend pas. Il y a que la narratrice qui comprend. Il y a que sa sœur jumelle qui comprend Ésaü. Hein. Et puis, il parle par prophète interposé. En fait, les phrases les plus violentes que j'ai pu lire, elles sont dans Jérémie, dans Ézéchiel. C'est vraiment condamnation du peuple dans une violence et des images très fortes. Je me disais, ben voilà, on va le faire parler à partir de ça. Et il y avait donc cette dimension aussi du chasseur. Voilà, du monde algonquin qui revient dans Jonas. Val-d'Or, quand on arrive, c'est une ville amérindienne, en fait, c'est-à-dire où les Amérindiens ont toujours été très présents. À l'époque de la baie James, les cris qui ont fait fortune à ce moment-là. D'ailleurs, on a beaucoup négocié avec eux les territoires. Donc, ils sont arrivés à Val-d'Or et ils possédaient une grande partie de l'immobilier donc, de la ville. Ils étaient là. Et donc, cette présence amérindienne était aussi très importante, bien qu'on... C'était finalement des nations qui se côtoyaient, mais qui se mélangeaient pas beaucoup. Et dans Ésaü, j'ai voulu entrer. Donc, mon père était avocat, et il a été longtemps avocat pour la communauté du lac Simon. Donc, lui nous racontait qu'il allait dans les réserves. C'est de là que me vient mon savoir sur les réserves, parce que moi, j'y suis pas allée, et d'une certaine manière, voilà. Alors, Ésaü, ben, si on regarde un petit peu, la page 22 là, que Elisabeth a reproduite. Donc, grandir dans ces paysages désolés, non pas ravagés, mais bruts, nus, irrémédiablement vierges, quoi qu'on fasse, dise, plante, creuse ou bâtisse, contamine, pollue. Grandir avec ce vent frontal qui force à plier par devant, par derrière. Ce vent qui arrache les yeux, brûle les oreilles, éteint le feu de toute phrase amorcée, fait bloc de toute pensée, force la gorge à... pousser syllabe par syllabe les mots givrés, méconnaissables, ne laisse pas intact. Donc, cette parole impuissantée, elle est immédiatement liée, au fond, au territoire. Et le point virgule dans Ésaü, qui a été pour moi beaucoup de bonheur, finalement, c'est-à-dire le point virgule, j'entendais le... Novarina récemment, mais ça fait longtemps qu'il a dit ça, mais j'étais sur un petit vidéo YouTube où il disait qu'il avait découvert le point virgule et que c'est le rebond de la pensée. Moi, je m'en servais aussi pour le bégaiement, c'est-à-dire la phrase inachevée qui était mon cas pendant des années, c'est-à-dire les phrases pas finies, que je suis très très sensible chez les étudiants, je leur dis souvent, prenez le temps de finir vos phrases. C'est quelque chose de douloureux de s'interrompt comme ça, et donc je voulais que ce texte soit marqué relativement, ça commence un peu intensément sur le point virgule, après évidemment on peut pas tenir ça si longtemps, puis il faut que ça se mette à parler, d'ailleurs le récit fait que la narratrice finit par avancer, mais bref, il y a tout un travail sur le calque, et dans Jonas et dans Ésaü, il faut que l'écriture essaie de calquer le personnage qui parle. Et donc, pour Jonas, évidemment, il y avait quelque chose de très différent. Il parle très, très, très vite. Il raconte son histoire très vite. Il l'a dit, finalement, on a l'impression, en peu de mots. Hein. Et puis, voilà, maintenant, écris-la, raconte-la. Et puis, voilà, elle va reconstituer cette histoire. Alors, pour créer le personnage d'Ésaü, c'est ça. Le paysage abitibien, les Algonquins, la brutalité de ce paysage, la violence et aussi sa beauté, la beauté de cette violence. Et j'ai vite constaté qu'Ésaü, c'était l'enfance, entièrement immergée dans un territoire que là, je vais dire innommé. Ça ne veut pas dire que les noms des lieux n'étaient pas connus, c'est qu'on décrivait pas les lieux. Hein? Puis au Québec, on nomme pas les plantes, on ne nomme pas les arbres. Moi, c'est quand j'ai connu des Français qui nommaient les essences, et on avait l'impression qu'en Abitibi, bon, à part les bouleaux, les épinettes, il n'y avait pas grand-chose. Or, c'est faux. La végétation est extrêmement diversifiée, elle n'est pas toujours somptueuse, mais elle est tout de même diversifiée. Et donc, cette manière de ne pas nommer les choses, qui vous rend très, très impuissant, à tout point de vue d'ailleurs. Et voilà, Ésaü, c'était ça, la matière brute animale, le paysage qu'on n'arrive pas à nommer, la brutalité du froid. Voilà, et ce que j'appelle le désert. Et comme on dit dans la Bible, le désert, il y a beaucoup de monde. C'est pas un désert, c'est-à-dire c'est complètement inhabité, c'est une aridité. C'est quelque chose qui vous ramène constamment à ce qui est le plus, on pourrait dire, le plus vif en soi, hein, le moins symbolisé en soi, ce qui est la matière brute. Alors, je voulais retrouver cette impuissance brute. Et là, on pourrait dire, la Bible m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et... Abitibi, c'est un mot algonquin, comme Témiscamingue, comme les noms qui apparaissent dans le journal, c'est des noms, beaucoup sont des noms algonquins. Bon, on sait bien tout le Québec traversé par cette toponymie. Mais ça veut dire là où les eaux se séparent. Évidemment, on est dans la Genève, je me suis dit, lisons ça. Donc, c'est là où, effectivement, C'est la citation de la page 20-22. Mon pays natal est nommé dans les deux premières phrases de la création. Hein, et là, je m'amuse. Et du coup, c'est comme si de faire passer le territoire réel, innommé, à travers le livre, ça m'a donné une prise. Une prise sur un territoire qui est éminemment corporel, c'est-à-dire qui est bien à moi. C'est pas parce qu'il passe par le livre que là, tout à coup, j'ai sublimé un truc. Et puis, ce passage par le livre me ressuscitait, effectivement, je pouvais me réapproprier cette démesure. Parce que la Bible, c'est formidable pour la démesure. Si on cherche quelque chose pour représenter la démesure, bon, on peut être sûr de trouver quelque chose dans la Bible. Et l'Abitibi a quelque chose de la démesure. Les grosses voitures. Alors, même aujourd'hui, vous allez à Val-d'Or, en Abitibi, c'est-à-dire sur la 3e avenue, qui fait demi-kilomètre, et les gens se promènent en 4x4, et puis tout le monde, tout est démesuré. L'or, c'était évidemment une certaine période, il y avait beaucoup de prospérité, il y a toujours eu de la pauvreté, de la misère, mais qui côtoyait des booms soudains économiques, des gens qui devenaient du jour au lendemain. Avec tout ce que j'ai raconté dans ces deux livres aussi, la domination, le fait que nous ne possédons pas le sous-sol au Québec. Et en Abitibi, c'était l'Ontario, les États-Unis, c'était des Américains qui venaient exploiter nos richesses naturelles. C'était épouvantable. Alors, toute cette condition politique, en fait, elle est au cœur du territoire aussi. Avec ce que ça impliquait, moi, j'allais donc dans une école publique. Les enfants étaient fils et filles de mineurs, pour une grande majorité. Et donc, n'était pas du tout fortuné. C'était la main d'œuvre qui était bien payée par rapport à d'autres boulots, mais tout de même. Alors voilà, je digresse un peu, mais c'est pour dire que cette démesure, elle est à tout point de vue. Et par exemple aussi, dans Ésaü, je parle du Nord. Alors dans la Bible, le malheur arrive toujours du Nord. C'est formidable. Vous lisez Jérémie. Alors toutes les visions, on vous dit, parce que Babylone, l'Assyrie est au nord de la terre. Donc, évidemment, tous les assaillants, toutes les grandes civilisations qui entouraient ce tout petit pays et qui veulent reprendre le territoire, ça arrive du Nord. Et donc, j'ai joué aussi là-dessus parce que le mot en hébreu, c'est tsafom, et la racine hébraïque nous renvoie, bien sûr, à la, on pourrait dire, au pôle au point cardinal, voilà, je vais le dire. Et puis, mais aussi, ça veut dire ténèbres, nuit. Et ça veut dire, la racine renvoie au verbe « guetter ». Et donc, évidemment, tous les commentaires autour jouent sur cette notion de nord qui implique donc des références tout à fait métaphysiques qui m'intéressaient particulièrement. Et donc, c'est la Bible qui me semblait pouvoir rendre cette démesure. Voilà. Alors, donc ça, c'était la deuxième partie qui essayait d'éclairer un peu l'Abitibi en tant que ça ne cesse pas de s'écrire. Que, voilà. Après, je suis arrivée à Jonas. Et Jonas, c'est différent. C'est-à-dire, d'abord, l'histoire de Jonas, je l'ai toujours connue. Pas nécessairement la vraie version biblique. Mais comme je raconte cette chanson qui était chantée, et puis on pourrait dire, j'ai l'impression que tous les enfants connaissent Jonas. Mais peut-être que je me trompe, mais en tout cas, pour moi, c'est un personnage familier. Et lui, j'ai voulu le plonger dans l'eau. Je me suis dit, là, on va changer du territoire, on va le faire entrer, donc, évidemment, là où il est, à savoir dans l'eau, mais dans l'eau d'une manière toujours enveloppée, protégée, soit dans un fond de cale ou dans le fameux poisson. Et comme c'est un roman sur le retour, et toute la... Alors, ce texte de Jonas, biblique, on le lit à Yom Kippour, dans l'après-midi. C'est un texte qu'on lit parce que le retour, en hébreu, se dit teshuva, ça concerne aussi le pardon. C'est-à-dire, on fait retour sur l'année, on fait retour vers la loi. Donc, faire teshuva, ça veut dire revenir sur... c'est un peu ce que je fais quand je dis je vais revenir sur le territoire. En fait, il y a quelque chose de ça. Et puis, évidemment, c'est un personnage qui revient, Jonas, dans le roman. J'ai joué beaucoup, beaucoup sur cette ligne. C'est le personnage que... on savait qu'il avait peut-être existé, et puis un jour, voilà, il revient dans la famille de sa mère. Alors, voilà, peut-être je peux lire, mais 24, 25, je vais juste regarder ce que je voulais lire à ce sujet. Oui, alors le retour de la mémoire, Ce roman joue beaucoup sur la scansion, c'est-à-dire les fusibles ont sauté, appel Perrault, entrée. Voilà, il y a ça. Ensuite, il y a « Je le vois si j'y pense hein, ».« Je le vois si j'y pense », »,« Je ne me vois pas encore dans... ». Et donc, c'est comment on essaie d'attraper, c'est pour ça que je dis que c'est un livre poisson, qui va à la fois avaler les choses, mais on tend la canne à pêche et on essaie d'attirer effectivement la mémoire. Et donc, ce que je dis, page 24-25, c'est le moment où Jonas raconte à la narratrice, « Oui, j'étais là au Sabourin en telle année », puis elle dit, « Vraiment, je te vois pas hein, », à la fameuse fête des régates d'été. Alors, page 24, « Pas encore visible, Jonas, dans la poussière du chemin, la lumière qui traverse les saules, les trembles, frappe les troncs d'arbres, la soie des talles de bouleau, polisse sous la paume. Je regarde et non, de mémoire, non, pas de Jonas dans le cri, ni parmi les corps emballés, ficelés, qui se jettent par bond, bong, 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 tombent, se relèvent, sautent encore, parviennent comme je te pousse à la ligne d'arrivée tracée au bâton dans le sable du chemin. Jonas était là? Pas de réponse. Il ouvre la bouche, la referme. Ouvre encore la bouche. Tu ne vois pas? On remettait des trophées aux gagnants. Jonas a gagné une belle canne à pêche rouge et or. Tu ne vois toujours pas? Une belle canne à pêche rouge et or. Parole du souffleur. Jonas, petit pour son âge, 18. Si je veux, je le vois sauter dans sa poche de jute. Mais ce n'est pas un souvenir. Il suffit de le dire, comme pour la canne à pêche, que je vois aussi maintenant si j'y pense et que je n'ai jamais vu. Et donc, ça dit un peu... Ça dit un petit peu le processus de l'écriture. C'est-à-dire que maintenant que je l'ai écrit, c'est presque un souvenir, alors que c'est inventé. Bon. Mais ça m'a beaucoup rappelé... les entrevues avec Marguerite Duras quand elle parle de son chinois. Et qu'au travers des... Et quand on lit son journal de jeune fille, ce chinois n'était ni beau, ni intéressant, ni vraiment désirable. Il ne s'est pas passé un truc parfaitement extraordinaire. Et puis, à la fin, c'est manifeste qu'elle est convaincue d'avoir vécu cette... Et je crois beaucoup à ça. C'est l'avantage d'écrire. C'est que... Alors, on s'invente pas une vie, mais il y a quelque chose qui, effectivement, est resignifié, réapproprié, et qui devient un réel vécu. Et c'est assez... enfin, je suis aussi, pourrais dire, tributaire des deux écrivains dans mon premier livre, Ducharme et Aquin. Ducharme, entre autres, pour la parole dans le texte, puisqu'il travaille beaucoup sur le parler dans l'écrit. Mais Aquin, qui a beaucoup joué, lui aussi, à sa manière, sur le fait que c'est l'écrit qui produit le réel. Et qu'à partir du moment où on l'a écrit, voilà, il y a quelque chose, un contre-coup qui va arriver, qui ne peut plus, et on est obligé de tenir compte, donc, de ces... Alors ça, c'est quelque chose qui s'interprète, finalement, psychiquement assez bien, et sur le plan de la fiction, de l'écriture, ça me semble aussi partagé, quand même, par beaucoup d'écrivains. Alors, le récit biblique pour Jonas, là, c'était quand même manifeste. Et puis, j'ai même pris des titres pour certains. C'est-à-dire que beaucoup de titres sont des phrases du texte biblique. Par exemple, « Et quoi tu dors ?» Et le sort tomba sur Jonas. « D'où viens-tu ? » ?»« Tu as fait remonter ma vie du néant. » Donc, le texte de Jonas était une source absolument remarquable. Et le fait de le plonger dans l'eau, je suis arrivée, en fait, à une autre version du territoire, qui était là, une version extrêmement sensuelle, très, très, moi je dirais très archaïque aussi, qui était donc la très petite enfance, avec cet étrange souvenir que je n'aurais jamais pu raconter avant d'essayer de l'écrire, donc, qui est devenu là quelque chose qui maintenant existe, mais donc cette expérience de l'évanouissement, si on peut dire. Et Jonas, c'est un personnage qui désire la mort. C'est-à-dire que, comme tous les prophètes, bon, Dieu l'a choisi malgré lui. Et la plupart des prophètes, donc Moïse le premier dit, moi je peux pas parler, je bégais. Je sais pas, il dit pas je bégais, mais j'ai la langue entravée. Jérémie pleure en disant que ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère, plutôt que d'aller proférer cette parole à mon peuple. Bon. Et au fond, chacun est pris et tenu d'aller parler à un peuple dont il ne se désolidarise jamais. Et Jonas, c'est celui qui est le prophète le plus révolté. Il ne répond même pas, il s'en va dans la direction totalement opposée. Et donc, il demande la mort plusieurs fois. D'abord, il s'en va et on sait que dormir, c'est un point de fuite aussi, hein, c'est-à-dire les grandes fatigues qu'on appelle des burn-out, c'est quand même aussi très souvent, c'est des moments où il y a véritablement une tentative de disparaître. Bon. Alors, il s'en va en fond de cale et il dort. Et puis ensuite, il va dire, ben, c'est moi la tempête, jetez-moi à l'eau. Et puis ensuite, bon, là, évidemment, il ne mourra pas. Dans le poisson, et là, il y a toutes sortes de versions intéressantes, mais c'est dans le poisson qu'il va brusquement retrouver sa vocation, ou du moins l'accepter, et puis il va être recraché. Et voilà. Alors, être plongé sous l'eau, mais au sec, c'est ça qui m'intéressait, et qui m'a fait retrouver des chaînes de souvenirs, c'est-à-dire des c'est très ténu, c'est-à-dire par exemple ce fond de barque, et puis avec des chaînes de sonorités, le cri du huard, le chant, les chansons que la mer chante, le bruit du clapotis, voilà, c'était finalement, c'est ça que je dis quand passer par l'abîme ramène des sensations, donc effectivement vécu, c'est quelque chose qui a été vécu, mais qui ne l'était pas, c'est-à-dire qui n'était pas reconnu, qui était que je ne pouvais pas solliciter à volonté comme des souvenirs. Et c'est l'écriture et, je dirais, l'extrême effort, parce que l'écriture, ce n'est pas juste dire voilà, ce qu'on veut dire, c'est d'essayer de bien dire un truc qui est absolument impossible à dire. C'est, disons, comme ça que je me vois écrire. D'où le fait que je désécris sans arrêt. Et là, des fois, je me dis, il y a trop de jouissance à désécrire. Je me lève le matin, je défais ce que j'ai fait la veille avec une espèce de joie. Bon. C'est-à-dire, dans cette certitude que c'est ça qui va me permettre à un moment donné peut-être de rejoindre ce qui est impossible à dire, c'est-à-dire qui ne peut qu'advenir sous une autre forme, mais qui, le but, c'est d'essayer de faire éprouver, c'est ça. Et quand les gens m'ont dit, après avoir lu, beaucoup de personnes m'ont dit, on veut aller en Abitibi, j'ai fait, mais là, c'est parce que c'est pas ça. Je sais pas. Mais ça m'a rappelé que la première fois que je suis allée à Paris, j'avais lu Proust, et Paris, c'était Proust. Et donc, on marche dans les livres. C'est vrai que découvrir un territoire après qu'on a lu une œuvre qui l'a décrite, et je dis Proust, il y avait Balzac et tout ça, mais Proust, c'est le Paris, c'est à peu près le même Paris que celui qu'on découvre, et le Luxembourg, voilà. Pour moi, c'était, je marchais dans le livre. Et je me dis, bon, ben, si je peux faire marcher des gens dans le livre, tant mieux. Mais même moi, retournant en Abitibi, c'est... Je sais pas, là, si je continue? Oui. Voilà, donc avec Jonas, c'était ce rapport à l'eau et à la sensualité, je me suis aperçue, qu'il y avait dans ce paysage abitibien d'été, quelque chose d'absolument sensuel, c'est-à-dire qui m'avait accompagné, qui m'accompagne encore toujours, c'est ce que j'appelais l'ensauvagement de la famille, en fait. Le fait que les corps, il n'y avait aucune indécence et on restait les mêmes, mais il y avait aussi, alors il n'y avait pas de toilette dans ce chalet, il n'y avait pas d'eau courante, donc il y avait la bécosse. Je me souviens que très petite, on allait avec ma mère le soir dans la nuit à la bécosse qui était quand même en dehors du chalet, là, bon. Et puis, voilà. Et tout ça ouvert, les corps ouverts, les murs des chambres ne montaient pas jusqu'en haut pour que l'air circule. C'était un chalet en bois rond, donc on entendait les gens dormir, parler le soir. On s'endormait dans le bruit du chalet. C'était très, très, très différent de la maison, très... C'est ça. Très cloisonné. De la ville, et puis il y avait le lac, les jeux, bon, voilà. Alors, le Jonas qui arrive dans la chaloupe, c'est vraiment soudain, ce qui m'a aussi fait créer toutes ces chaînes d'associations. C'est freudien, mais ça marche comme ça. C'est-à-dire que finalement, je me suis dit, mais il y a beaucoup de bateaux dans ma vie, puis je vais, d'une certaine manière, les associer avec chaque fois ces expériences de mal de mer. Hein? L'expérience de la petite enfance, c'est une expérience... difficile à nommer, en fait, je sais rien de ça. Mais après, je pourrais dire, sur des bateaux, l'évanouissement a toujours été imminent. Je n'ai pas le pied marin. Et donc, je me suis dit, ben, c'est un peu ça aussi, l'endormissement. Donc, je cherche, je dis, comment nommer, bon, mal de mer, endormissement, évanouissement, sommeil, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais il s'agit effectivement de quelque chose qui fait disparaître provisoirement, ou en tout cas... met le sujet sur le bord de sa propre disparition. Et voilà, avec Jonas, il y avait de ça. Et ça me venait aussi du territoire. Voilà, et ça rejoint évidemment ce territoire où je pourrais dire, là il y a un déplacement du territoire parce qu'il y a l'Abitibi, mais il y a le camp d'été. Bon, évidemment, ces voyages en bateau nous font sortir d'autres territoires, si on peut dire. Mais la chaîne, elle est vraiment ancrée, c'est le cas de le dire, donc dans ce lac abitibien. Et dans ce paysage éminemment nu, puisqu'il n'y a pas de montagne en Abitibi. Quand on est devant un lac, vraiment, on voit la ligne du lac. On ne voit pas de l'autre côté, versant, montagne, tout ça. C'est rien. Et ma mère a toujours dit, le ciel est bas en Abitibi. Et c'est vrai que quand on arrive au bout de la 117 Nord, on a cette impression, parce que bon, c'est pas si au nord que ça quand on regarde une carte, où il y a encore tellement d'espace au nord, mais il y a une transformation et de la végétation et de la lumière qui fait que, voilà. Alors, oui, les noms de pays. Alors ça, c'est formidable. Je ne sais pas si ça se raconte, c'est-à-dire comment c'est arrivé. Mais bon, d'abord, ce qu'on découvre évidemment dans la toponymie de l'Abitibi, c'est que contrairement au reste du Québec, c'est pas Saint-Machin, Sainte-Chose. Hein. C'est vraiment des noms qui ont été, là, je le raconte, donc tirés de notre histoire, de notre défaite. Et donc, c'est les noms des grands personnages de la défaite des plaines d'Abraham. Et tous ces noms, je vais donc en lire quelques-uns, qui sont absolument magnifiques et qui... je dirais, il y a quelque chose de proustien quand je les ai retravaillés. Parce que moi, j'ai dû prendre une carte à un moment donné, même pour le train, parce que je passe du coq à l'âne, mais c'est le même récit. Le train, ce voyage en train, moi, je le faisais donc très, très jeune avec ma mère. Et c'était des voyages de nuit. C'est-à-dire, on partait vers 6 heures de Vincennesville. En fait, on partait de Val-d'Or, mais mon père disait que ça prend tellement de temps d'aller de Val-d'Or à Vincennesville en train qu'il venait nous reconduire à Vincennesville. Donc, on partait. Et là, on partait pour 15 heures en train avec couchette, argenterie. On a des souvenirs de ça, même ma mère, c'est-à-dire la salle à manger, les nappes blanches empesées. J'ai longtemps gardé un couteau que j'avais, je ne sais pas comment, conservé. Donc, de l'argenterie marquée au CN, les couchettes, tout ça. Et on s'arrêtait dans la nuit. Brusquement, on était arrêtés. Et je me souviens qu'on regardait, on était nulle part. Mais il y avait des Amérindiens qui montaient dans le train. Et donc, qui avaient averti, voilà, vous m'arrêtez à telle station. Voilà. Et on arrivait à Montréal le lendemain après-midi. Donc, c'était vraiment un long voyage. Et donc, pour retrouver les noms. Parce qu'enfant, les noms, c'était pas... Je me souvenais de Clova, il y avait des noms. Mais quand je les ai lus sur la carte, c'était incroyable l'effet. C'est-à-dire, je me suis aperçue que je les avais quelque part inscrits. Alors, je vais juste lire 132, 133, mais juste pour faire résonner les noms. 133, mettons. Bon, on va dire 132. Je te vois, Jonas, du haut de la tour Rotary à l'ouest de Val-d'Or, où je contemple au loin le grand lac Kennawissick, rebaptisé de Montigny par les explorateurs qui sont aussi tes pères, avec Joe McKenzie, l'Algonquin, guérisseur, qui t'a ressuscité, avec Damien Perrault qui t'a élu. Comme toi, je suis marqué au sceau des noms de mon enfance, rougeur sur ma peau, incise dans ma chair, qui s'ouvre dès que je les entends. Ces noms de plus de 1000 ans que nous ne savions pas traduire, Témiscamingue, Machimanitou, Windigo, Baskatong, sur lesquels d'autres noms sont venus s'écrire dans l'espoir de redonner à la défaite de notre peuple une mémoire glorieuse. Toute l'Abitibi découpée par les noms des régiments de Montcalm, les officiers valeureux que le chevalier de Lévis recommande au roi de France pour service signalé. Tous ces beaux noms français subliment notre royaume fantasmatique, ouvrant pour nous, enfants, autant de tombeaux vides que nous avons remplis à ras-bord de nos jeux, jour-nuit. La Reine, La Sarre, Languedoc, Guyenne, Berry, Béarn, ces noms exilés en terre boréale font se lever de petites églises, des fermes, des villages, des villes dépliées au milieu d'un Far West nouveau. Cadillac, Malartic, Palmarol, Roquemort, Villemontel, Aiguebelle, Beauchâtel, Duparquet, Combien de fois les avons-nous entendus pour désigner des boudrins, des plaines, des territoires sauvages, de vastes champs pauvres où vivaient des familles isolées, attachées à ce supplément d'existence, détentrices d'une âme forgée par les détours qui ont abouti là et capables du jour au lendemain d'arracher leur maison à ses fondations, la charger sur une remorque aussi large que la route pour la transporter jusqu'en ville, à Rouen, à Val-d'Or, que les mines transforment en Nouvelle-Babylone. Et ça, c'est vrai, combien de fois les gens partaient avec leur maison, déménageaient en ville avec la maison. Mais ça, c'est très proustien, c'est un moment proustien, hein, c'est-à-dire que le nom fait brusquement surgir. Mais ça, c'est particulièrement intéressant. Et donc, ce travail sur les noms, ce que j'ai découvert, c'est que me mettant à écrire sur l'Abitibi, je me suis mise à désirer l'Abitibi. Moi qui avais eu si hâte d'en sortir, qui en suis sortie à l'âge de 17 ans, donc pour venir étudier à Montréal. Et donc, ce travail sur les noms a été très, très important, parce que pendant longtemps, et je dirais, c'est un peu le propre de quiconque ne sait pas ce que c'est que l'art. Je raconte dans Jonas l'expérience de la découverte de la poésie Mallarmé, c'est-à-dire des langues qui étaient pour moi des langues qui m'arrachaient à cette langue maternelle, c'est-à-dire langue maternelle au sens où on était complètement surprotégé, donc avec cette impossibilité de parler, qui était la mienne d'ailleurs, qui n'était pas celle de ma famille, mais qui était vraiment la mienne. Et longtemps, je me souviens, je me disais, mais on pourrait pas écrire ici, sur c'est tellement local, c'est comme s'il y avait des pays et des noms qui étaient par définition littéraires et d'autres qui ne l'étaient pas. Et donc l'Abitibi pour moi était un non-lieu, non littéraire, il n'y avait aucun espoir de pouvoir dire quelque chose. C'était en contradiction totale avec ma mère, qui, elle, je parle d'elle parce qu'elle est très, très présente, je dirais, dans tout ce que j'écris. Elle aussi, c'est comme ce qui revient. Donc, c'est sûr que c'est la matrice. Mais elle avait, sur l'Abitibi, une parole merveilleuse. C'est-à-dire que pour mes parents, ça a été effectivement une terre promise. D'abord, l'Église n'avait pas là, dans les années 50, le pouvoir qu'elle avait encore ailleurs. Il y avait des bordels, il y avait des boîtes à chansons. Le cinéma américain arrivait là parce que ceux qui avaient les cinémas à Val-d'Or, c'était des Juifs qui étaient branchés sur New York. Alors on avait, ma mère dit toujours, on voyait tous les films qui arrivaient avant qu'ils arrivent à Montréal. Mes parents sortaient. Pour eux, là, c'était vraiment une ville ouverte. Et donc, et cette tante Gilberte, ces infirmières de colonie, hein, de brousse. Il y en a eu partout au Québec. Ça. Il y a une chercheure de l'Université Laval, il y a deux chercheuses de l'Université Laval qui ont justement publié un livre il y a 2 ans sur les infirmières de colonies qui étaient des fées, c'est-à-dire qui opéraient justement dans des lieux comme ça très loin. Et donc cette tante, elle aussi, elle nous décrivait évidemment ce qu'elle faisait. Quand elle débarquait chez nous, c'était toujours... Puis elle était extrêmement... masculine, très forte, elle avait accouché, était allée accoucher des femmes à cheval, c'est-à-dire elle était partie avec son cheval parce qu'il n'y a pas de médecin et tout ça. Elle nous racontait ça, nous, c'était fabuleux. Mais évidemment, je ne vivais pas ça, moi, ce n'était pas mon vécu. Donc, finalement, je me suis dit, mais je vais passer par elle, puisque de toute façon, elle occupe, c'est là où j'appelle un territoire transmis, c'est qu'il y a une parole sur ce territoire dans ma famille. Donc, il y a la parole de cette tante. Et il y a la parole des parents, et en particulier, donc, de ma mère. Et alors, mes parents arrivent, donc, des vieux territoires, et puis ils ne se connaissent pas, ils vont se connaître en Abitibi. Et quand je travaillais, à un moment donné, je cherchais des noms de magasins, de boutiques de mon enfance, puis je me suis dit, ben, cette fois-ci, je vais aller me chercher un annuaire des années 50-60. Bibliothèque nationale, zéro, pas moyen de trouver un annuaire, mes parents n'en avaient plus. Donc, à Val-d'Or, dans les années 80, s'est créée une société historique de Val-d'Or. Il y a d'ailleurs des livres qui m'ont beaucoup servi sur les mines et tout ça. Et là, on découvre que c'est un pays éminemment épique. C'est un territoire épique, mais on ne vit pas l'épopée. Hein? C'est-à-dire, on écrit l'épopée, mais quand on est dedans, on est soit dans la misère, la souffrance, la lutte. Mais c'est un récit épique, bon. Et j'écris donc à la Société historique de Val-d'Or, et c'est Denis Chabot qui est là, qui me dit « Est-ce que je suis en train de parler à l'auteur de la pisseuse ?» J'ai dit « Oui, c'est moi. » Alors, il dit, j'ai un exemplaire d'un annuaire de 1954, il me fera plaisir de vous l'offrir. Donc, il l'a apporté pour vous le montrer. Hein. D'ailleurs, dessus, c'est écrit Abitibi Electric Limited. Donc, moi, j'ouvre ça. Bon, je retrouve que... Mais c'est 1954, là. Moi, je ne suis pas encore de ce monde. Je suis allée chez mes parents avec ça. Ce fut extraordinaire. Moi qui n'ai pas de mémoire, c'est pour ça que j'écris, j'en suis convaincue. Plus on oublie, plus on recrée. Mais ma mère a une mémoire fabuleuse. Et là, chaque nom ressuscitait évidemment un récit, leur histoire, etc. Et je m'apercevais que c'était des choses que j'avais déjà entendues. Donc, territoire transmis, qui est indissociable évidemment de mon histoire. Mais ce que j'essaie de dire en disant tout ça, c'est que la réalité, donc Freud dit, c'est un territoire, c'est une terre étrangère extérieure, mais c'est une terre étrangère parlée. C'est-à-dire, c'est une terre, ce territoire est avant tout un territoire qui a été récité, parlé, raconté, et que j'ai à mon tour tenté de créer à partir évidemment de ce qui me restait de ça. Et alors, il y a des moments qui sont puisés, justement, dans ces livres sur l'histoire de l'Abitibi. Par exemple, la fameuse princesse Tcherbato. Il y a des photos d'elle. Alors, elle a travaillé chez Coco Chanel dans les années 30. En 38, elle se marie à Koulomzin, donc, qui est un géologue russe, qui, lui, s'en vient à Val-d'Or. Et ils sont là jusqu'à peu près en 52. Et quand j'ai retrouvé dans Proust la phrase où il pense que c'est une tenancière de bordel qui est assise dans le train, c'est une vieille bonne femme laide, bon, cette femme est une princesse, la princesse Cherbatchov d'Abitibi, elle mesure à peu près 6 pieds, on la voit avec ses raquettes transportant du bois, elle est formidable. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça l'Abitibi, c'est pas possible. Il y avait une vraie princesse, on s'en fout nous des princesses. Mais Proust me faisait... Tout à coup, je me disais, ben voilà, c'est quand même étonnant de retrouver ce genre d'événement. Non. Et puis, par exemple, il y a des vrais noms comme d'Aragon, celui qui s'en allait justement, qui sortait de la Shoah et qui s'en allait donc au Brésil et qui rencontre ce géologue sur le bateau qui lui dit, ben en Abitibi, il y a de l'or, viens. Voilà, tout ça, c'est vrai. Et d'une certaine manière, à un moment donné, je me disais, ben, je ne sais pas pour mettre ça, c'est tellement irréaliste, mais c'est ça. Voilà. Alors, disons que, je ne sais pas, je peux m'arrêter là. Moi, ce que j'aimerais entendre, c'est évidemment ce que vous avez à me dire ou à me demander. Voilà. Ben, merci.
Merci à toi. Alors, vos questions, commentaires... Donc, c'est une histoire inventée. Je pose la question parce que, aussi bien que ce soit moi qui la pose, mais la tante Gilberte n'est pas inventée.
Pas du tout. C'est drôle de dire ça, parce que, évidemment, dans les entrevues, on demande toujours, est-ce que c'est une histoire vraie? Moi, je dis tout ce qu'on dit est vrai. Mais la tante Gilberte, elle arrive aussi dans les ahus. Puis, elle, à un moment donné, quelqu'un qui lirait là dirait, bon, celle-là, finalement, il y a tellement souvent qu'elle doit avoir existé. Mais... C'est des hommages que je rends aussi à ces personnages, qui sont des personnages hors du commun. Bon, les parents qu'on a eus, c'est sûr, tout écrivain parle de sa mère, de son père, mais la tante Gilberte est un personnage hors du commun. Je l'ai beaucoup découvert. Nous, on avait peur d'elle parce qu'elle était infirmière. Quand elle était chez nous, on se disait, oh, c'est pas vrai, qui s'en va à l'hôpital aujourd'hui? Hein? Qui va se faire opérer pour les amygdales? Bon, et puis, elle avait une façon de parler, et puis on n'était pas du tout dans... C'était pas une personne chaleureuse, mais c'était... Voilà, elle avait sa force. Et puis, dans le récit de ma mère, qui a accouché 3 fois grâce à sa sœur, ça, je le raconte, comment ces récits d'accouchement, et j'ai entendu beaucoup, donc comment on accouchait, c'est-à-dire, peut-être ce que les sages-femmes font maintenant, qu'on retrouve des maisons de naissance, où on peut retrouver ces manières... Voilà, et ma mère disait toujours, quand le médecin venait, c'était pour constater, finalement, le bébé était sorti, puis c'est Gilberte qui faisait tout. Bon. Et c'est quand même des personnages féminins remarquables. Puis c'est vrai qu'elle est morte à 95 ans. Alors, n'y avait pas de lettres, et puis Jonas, c'est complètement inventé. Mais d'où je pouvais le faire sortir pour que son histoire et la mienne se rejoignent, j'ai tout à coup trouvé, ben, c'est elle, l'accoucheuse. Ça pouvait être que la femme qui a accouché. Donc, on aurait été tous les deux issus de la même accoucheuse.
Oui, fantasmatiquement, elle a presque quelque chose d'amérindienne, cette accoucheuse qui accouche, qui sait accoucher, sans blesser les mères, sans blesser les bébés. De cette pratique-là, elle, on pense à, aux légendes, enfin, les sauvages sont passés, et tout ça. Là. Oui. Laurence?
C'est une question que j'avais posée dans le cadre du cours, puis là, je suis curieuse d'en avoir la réponse. Là, je constate que c'est effectivement pas l'intuition que j'avais. Je pense au moment où vous êtes dans le train, justement, puis vous faites la succession des villes. Moi, ça m'avait fait penser à Kamouraska d'Anne Hébert. Je me demandais si c'était une de vos lectures, une de vos influences, peut-être.
Pas consciente, mais j'ai lu Kamouraska. J'ai pas pensé à ça très précisément. Mais au fond, si j'y pense, là... Je le vois si j'y pense. c'est-à-dire l'hiver de Kamouraska, Claude Jutras vient d'Amos, hein, et j'ai bien connu, enfin, c'est pas vrai, mais dans ma famille, on a bien connu la mère de Claude Jutras, qui est un personnage assez farfelu, qui s'habillait en Kamouraska, etc. Bon. Et ce film-là, je l'ai beaucoup vu, le texte, je l'ai lu, mais disons consciemment, non. Mais c'est quelque chose, effectivement, qui appartient à notre, on pourrait dire, le train, c'est plus... Alors, ce que je peux vous dire, c'est que quiconque veut faire le voyage en Abitibi en train, semble que Via Rail le fait l'été. Alors, ils refont le grand parcours, mais c'est pas le même train, tout ça, mais et ils repassent par les mêmes lieux. Mais la réponse, c'est non, consciemment, j'ai pas pensé à ça.
Ce qui ne change rien au fait que nous, on y a pensé.
Ben voilà,
Il y a l'écho absolument évident qu'on avait pendant la séance, quelques-uns d'entre nous, parce qu'on avait le texte de Kamouraska. Ouais. C'est l'avancée de Rivière-Ouelle à Kamouraska quand elle refait le chemin du meurtrier.
Tout à fait. Et d'ailleurs, moi, j'abonde. J'aime beaucoup que les gens trouvent des choses que l'auteur n'a pas nécessairement voulu. Mais au fond, pour moi, Anne Hébert, c'est la plus grande écrivaine du paysage hostile. Et alors là, oui, j'ai une filiation, c'est-à-dire les fous de Bassan. Pour moi, avoir écrit Le vent du fleuve comme elle a su l'écrire, je pensais à elle sûrement parce que c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Cette hostilité de notre paysage qui n'est pas qu'en Abitibi. Hein?
Je me donne brièvement la parole parce que je veux revenir sur quelque chose avant de l'oublier. Nous, on a lu, dans le séminaire, on a lu que Jonas, mais tu as dit que c'était des livres jumeaux. C'est vrai de l'Abitibi, puis là on a bien vu comment ça remonte, comment ça s'impose, cette Abitibi externe, non vécue, et que mais ce sont aussi des livres jumeaux à cause du dispositif narratif qui est très intéressant et qui est voisin, puisque la sœur jumelle, qui est la seule à pouvoir un peu décrypter le discours un peu fou d'Ésaü, et la narratrice qui est carrément chargée de... Est-ce que tu peux dire quelque chose, même si on s'éloigne du paysage, sur ce dispositif?
Oui, je pense que je peux dire quelque chose. Mais d'abord, moi, je l'ai constaté. C'est-à-dire que la mise en scène de l'écriture, j'ai essayé d'analyser... Là, je suis en train de préparer un autre chantier, puis j'essaie justement de m'arracher de cette condition. C'est-à-dire qu'au fond, dans les deux romans, mais je pourrais dire même avant, c'est comme si la narratrice n'écrivait que parce qu'on lui demande d'écrire. C'est-à-dire qu'il y a une commande. Par exemple, là, Ésaü a disparu, c'est l'émission Les Retrouvailles qui lui dit, si vous voulez qu'on le retrouve, il faut quand même nous donner une description du personnage. Et puis c'est là qu'elle va partir, donc, à donner des pistes qui ne sont jamais des pistes réalistes. Mais au fond, elle écrit parce qu'on lui demande, voilà. C'est pareil, Jonas débarque, je peux pas moi l'écrire, toi qui connais un peu l'histoire juive et tout, pourrais-tu prendre mon histoire et l'écrire? Et là, je me disais, est-ce qu'il y a une illégitimité? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je m'interroge, c'est-à-dire, comment ça se fait que je m'autorise à écrire? C'est-à-dire que le... Parce que Jonas, c'est moi aussi, là. Puis Ésaü, c'est-à-dire au fond, un écrivain est partout. Jonas, Ésaü, c'est beaucoup moi aussi. Mais je dirais... Celle qui porte la voix ne s'autorise à écrire que parce qu'elle est, d'une certaine manière, sollicitée, avec presque un contrat à la clé. Mais c'est une question et qui m'intéresse assez. Et je me dis, bon, est-ce que à un moment donné, dans la pisseuse, il y avait un contrat aussi. qui était un film. Bon, et là, tout se met en place. Il y a le principe aussi, mais là, je crois que c'est moins la question de la légitimité, mais ce qui m'intéresse, c'est le principe de l'interprétation. Chacun interprète l'histoire de l'autre. Et au fond, quand elle cite Jonas, il veut dire ceci, etc. Elle est déjà dans le procès de la traduction, de l'interprétation. Donc ça, je sais que c'est au cœur de mon écriture. C'est-à-dire que écrire, c'est faire advenir du sens, le produire en acte, etc. Donc, l'appropriation de l'histoire de l'autre. Peut-être aussi, mais là, on entre dans des questions très, moi, je dirais, analytiques, auto-analytiques, c'est-à-dire que l'écriture ne m'est pas venue en premier. Moi, je vous ai dit, j'ai fait de la musique d'abord. Et dans les familles, il y a des discours sur les enfants. C'est-à-dire, on reconnaît très tôt les talents. Et la lectrice, c'était ma sœur aînée, celle qui lit, celle qui... Moi, je lisais peut-être, j'ai lu, je me souviens d'avoir lu, mais le discours, alors que ma sœur est devenue artiste, graphiste, etc., elle n'est pas là-dedans du tout. Et c'est, la question de la légitimité est venue lorsque j'ai fait, alors, mon bac en musique à Ottawa, et c'est là que j'ai eu, je crois, le plus grand professeur de toutes mes études, au sens où il transcendait l'enseignement. C'était un grand pianiste, c'était Jean-Paul Sevilla, et moi, j'étais douée relativement, mais en musique, voilà, il y avait des gens là qui étaient 100 fois plus doués que moi. Bon, et moi, je faisais, voilà. Et aller jouer devant mon professeur était extrêmement angoissant. Je fais une histoire courte et j'avais des blancs de mémoire, parce qu'il faut tout jouer de mémoire, pas pour rien la mémoire. Et un jour, donc c'est à la fin de mes études de bac en musique, je lui joue tout mon programme. Il fallait faire des récitals, j'avais horreur de ça. Je lui joue tout mon programme intégralement. Sans faute de mémoire, sans accrochage, et je me tourne triomphante. Et il me dit, ma chérie, tu devrais écrire. Et j'ai fait comme attends là. Parce qu'il donnait aussi un cours de répertoire, où on faisait des travaux écrits. Et je lui avais remis un travail écrit. Et lui était beaucoup plus intéressé par mon travail écrit que par tout ce que je venais de faire. Et au lieu de dire, c'est formidable, bravo, il m'a dit, ma chérie, tu devrais écrire. Et je sais que ça a fait comme vraiment un choc bénéfique. Il y a eu comme une joie qui m'a envahie. Et puis, l'année d'après, j'étais en lettres. Donc, mais voilà, j'aime cette question parce que c'est une question pour moi aussi. Okay.
Mais pour nous, en tout cas, pour les lecteurs, il me semble que c'est un dispositif qui marche. C'est-à-dire que... Je ne crois pas que comme lecteur, lectrice, on le voit comme une autorisation, une légitimité, mais ça met en scène la porosité, c'est-à-dire que la narratrice, la sœur, sait Ésaü, sans compter qu'elle ment, qu'elle ne dit pas tout, et qu'elle... Et même chose pour Jonas, la narratrice... se découvre être Jonas, elle se découvre une gémellité là aussi avec Jonas. Donc, ça ouvre une possibilité à la lecture qui est celle de l'aller-retour continuel entre les individualités et de leur porosité fondamentale.
Et que l'histoire de quelqu'un nous concerne. Moi, je crois beaucoup. C'est pour ça qu'on lit de la littérature. C'est son histoire à lui. On est immédiatement... Oui. Ce qui fait que l'histoire de quelqu'un d'autre nous concerne, c'est qu'elle porte en elle un point d'universel, en fait. Oui. Et Jonas, c'était beaucoup ça. Alors qu'Ésaü, c'était pas d'emblée ça, parce qu'il est très, très singulier. Et il m'apparaissait comme l'étrangeté absolue. Mmh. Et pourtant, c'est un artiste, donc c'est un peintre. Mais voilà, oui, en effet. Il y a quelque chose d'enrichissant, en fait, de dire...
Et qu'on est aussi, être, c'est être les autres, c'est être la somme des rencontres, des découvertes. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'en ai d'autres, mais je vais les garder un peu pour moi.
En fait, Sandrine. C'est comme un peu une question en creux par rapport à la territoire, mais j'ai vu juste Jonas, mais est-ce que vous pourriez écrire sur le territoire montréalais, qui serait sur Montréal, qui ne serait pas comme un récit transmis par la famille?
Absolument, dans Rien et autres souvenirs, je l'ai beaucoup fait avec le belvédère de la montagne Mont-Royal, les rues de Montréal. Oui, j'ai beaucoup écrit sur Montréal, qui est pour moi une ville que j'ai découverte grande, une fois que j'étais grande. Et qui a été beaucoup plus facile pour moi de m'approprier sur le plan de l'écriture parce que j'y étais pas complètement immergée. Et c'est pour ça que je dis l'Abitibi est quelque chose qui fait retour constamment. Mais Montréal, oui. J'ai même écrit sur Tolède avant d'y aller. J'ai écrit sur Prague avant d'y aller. Je travaillais avec du matériel, des cartes, des plans. Mmh. Et puis, l'étrangeté, c'est qu'après, quand on y va, c'est pas du tout ce qu'on voyait, même si on a vu des photos et tout ça. Puis maintenant, avec Google Maps, on peut quasiment se promener, là, bon, mais... Oui, ça, je dirais, les territoires imaginaires sont quelque part beaucoup plus accessibles pour moi que l'Abitibi. C'est pour ça que je trouvais intéressant de venir parler de ce territoire-là en particulier.
Ouais, il me semble que ça rejoint un peu ce qu'on a essayé de s'en dire dans le séminaire, la question de la démesure, la question de l'intensité, la question de la limite. Oui.
Vous aviez parlé un peu avec le mal de mer, là, puis l'évanouissement, puis le désir de mort de Jonas, puis le sommeil, puis un peu la disparition du sujet. Puis je me demandais si vous pourriez peut-être préciser un peu ou définir le lien entre comment nommer les choses, donc quand on les nomme, puis comment nommer les choses, comment ça entraîne une disparition du sujet. Je ne comprenais pas trop le lien entre les deux.
Oui. Je ne sais pas si je l'ai dit comme ça. En fait, toute cette chaîne des évanouissements, disons, ça concerne encore la dimension de... C'est-à-dire, il y a la question de la jouissance qui est là. C'est-à-dire de l'impossibilité de dire la jouissance. De la petite enfant, au fond, du... C'est-à-dire, c'est le rapport à la sensation. Et je dirais, la tentative de rendre ça, avec tout l'effort qui est fait pour nommer l'évanouissement, évidemment, c'était Jonas qui m'aidait à faire ça, dans la mesure où, pour lui, le sommeil est une fuite, le sommeil est une mort, mais c'est dans la matrice du poisson, où, en principe, il est mort, qu'il trouve la parole. Et je dirais, là, on est dans quelque chose que j'essaie de penser, par exemple, dans certains textes bibliques ou littéraires. C'est-à-dire comment le passage par le néant, qui est relatif, là, parce qu'on ne se suicide pas, là, mais le passage par ce trou d'impossible fait advenir quelque chose après. Et donc, la seule chose qui me permettait d'avancer sur ce terrain, c'était d'associer un bateau à un autre bateau. Et puis, je m'apercevais que, bon, ben, il y en avait quand même quelques-uns que je pouvais évoquer. Et qui sont chaque fois des expériences, à un moment donné, quand elle est sur le traversier au bout de Cap Hatteras, dans une espèce de tempête, et qu'elle tombe comme ça parmi les gens, et elle dit « on pourrait me jeter à l'eau, ça ne ferait rien ». C'est-à-dire ces moments où on est brusquement chose. Ça m'intéresse beaucoup. Mais ça m'intéresse sur le plan, évidemment, de l'expérience, mais de ce que ça permet de dire. Puis là, ben, d'essayer de l'écrire, c'était aussi un défi. Je ne sais pas si je réponds.
Oui, merci beaucoup.
Daniel?
Oui, Daniel.
Est-ce que le territoire ne peut exister qu'au passé, ou si j'inverse ma question, est-ce qu'il ne peut exister au présent que dans le récit du territoire passé?
J'en ferai pas une loi générale. Hein, j'en ferai pas une loi générale. C'est-à-dire, si on parle de l'Abitibi, c'est un destin. Pour moi, c'est un territoire passé. Je peux pas imaginer retourner vivre là, par exemple. C'est inconcevable pour moi. En écrivant, on y va cet été, on va aller faire un tour. Puis il y a eu le décès d'un oncle ici, puis d'une tante là, ce qui a fait qu'on est retourné. Mais moi, j'ai quitté l'Abitibi en disant, allez, derrière moi. Enfin, que ça revienne dans l'écriture me fait très plaisir. C'est pour ça que j'ai commencé en disant je peux pas nier que je viens de là. Mais est-ce que j'écrirai à jamais sur l'Abitibi? Disons que le territoire est pas mal parcouru, là, pas à l'infini, mais je dirais je peux écrire au présent, mais pas sur l'Abitibi. Il peut pas être présent pour moi, ce territoire. C'est-à-dire il s'est présenté par l'écriture. Je sais pas si c'est ça le sens de la question.
Oui, un peu, mais c'est aussi sa question justement de son actualité du territoire. Mm-hmm. Est-ce que le territoire n'est actuel que parce qu'on raconte ce qu'il a été, et il devient un peu évanouissant à partir du moment où la parole se tait? Mm-hmm. Est-ce qu'il peut exister au présent finalement, ce territoire-là?
Vous allez avoir Louis Hamelin. C'est-à-dire, moi, je pense que le territoire de l'Abitibi reste un territoire. Tout territoire est un territoire qui peut devenir littéraire. Et donc, il y a aussi celle qui a écrit « Pleut des oiseaux
». Jocelyne.
Oui, quand elle écrit les héritiers de la mine, là. Mm-hmm. Bon, Louis Hamelin, évidemment.
Oui, Virginie Doucet, c'est quoi le deuxième nom? La 117 Nord.
La 117 Nord. C'est-à-dire que le territoire abitibien reste... qu'il est.
Oui, oui.
Il n'est pas celui que mes parents ont connu dans les années 50. Là, je dirais, là, ça, c'est un héritage, mais... Je pense que Louis Hamelin, quand il parle de l'Abitibi, il y a des choses à dire aussi sur cette dimension-là de...
Vince Lede, pardon.
C'est ça les noms.
Mais non, c'est pas...
Blanchette Doucet.
Blanchette.
Blanchette.
Doucet. Alors, Virginie Blanchette Doucet, 117 Nord.
Ouais.
2016.
Ouais. Non, pardon. Non, le paysage, le territoire, en fait, je sais pas, c'est un enjeu de tout écrivain, il me semble. On parlait de Anne Hébert... voilà. Oui.
Il me semble que quand on pense, je sais pas, à ces nouveaux territoires-là qui ont été colonisés récemment dans l'imaginaire, souvent les clichés, c'est que c'est des lieux sans histoire, qui sont récents, l'Amérique sans histoire, bon, vraiment. Pourtant, il me semble que la BTB, dans le roman, l'histoire passe. Comme pour
rendre oui. Une...
Puis je me demandais comme, quelle place prend la grande histoire dans
ce... Ben, l'immigration 1939. Okay. Alors, ce qui est assez intéressant de l'Abitibi, c'était avant la loi 101, moi, dans mon enfance. Alors, par exemple, moi, j'ai connu qu'il y avait des Juifs par madame, celle que j'appelle Madame Lucienne. Hein? Alors, qui travaillait chez nous et qui travaillait le samedi dans une maison juive. Et donc, qui, comme ça, nous en donnait, quand ma mère n'était pas là, de l'information. Bon. Mais les magasins, par exemple, chez Jay Moore, c'était... Alors, il était très drôle, lui. Il parlait français cassé avec un accent pas possible. Et c'était un magasin où il y avait des vêtements pour enfants. Ma mère, elle nous habillait là. Puis lui, il était souvent là. Et il disait... C'est une amie qui me rappelait ça. Tu te souviens-tu qu'il disait qu'il faisait du bacon cachère? Bon. Alors, voilà, il y avait des personnages. Mais à part, bon, ceux qui parlaient français un peu... Il y avait les Haïtiens qui venaient avec nous à l'école. Et puis après, les Maghrébins sont arrivés dans les années 70, d'Afrique du Nord. Eux, ça a été nos profs au secondaire. Moi, en mathématiques, en chimie, j'avais les Maghrébins. Mais Polonais, Italiens, Ukrainiens, il y avait une grosse communauté ukrainienne. Russes, il y avait une église orthodoxe russe. Ben, ils parlaient tous anglais, ils allaient à l'école anglaise. Donc, les enfants ne se sont pas côtoyés. Sauf au chalet, où là, ces gens-là avaient des chalets. Et mon père aurait tant voulu qu'on aille jouer avec les Anglais, mais au Québec, c'est comme ça. On avait les Français d'un bord, puis on jouait pas avec eux. Alors, ça, c'est pas... C'est quand même particulier. Hein. Mais aujourd'hui, par exemple, les enfants de cette génération, c'est-à-dire ceux qui ont mon âge aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se sont francisés, dont les enfants sont francisés aujourd'hui. Donc, ce Val d'Or de mon enfance, très schizo, très anglo-français... Et puis, il y avait beaucoup d'anglais parce que les mines appartenaient aux Américains et à l'Ontario. Donc, voilà. Mais je pense que ce n'est plus ça, là. Je pense qu'on a plus, on voit plus ça. Et les Juifs sont partis. La synagogue n'existe plus. Il y en a une qui reste à Rouen parce que la communauté s'est déplacée à un moment donné. Et puis, ces gens-là sont finalement partis vers les grands centres. Voilà. C'est, vous savez que... voyons, celle qui a écrit... je vais te dire, sur Saint-Henri, là, notre écrivaine du Manitoba.
Gabrielle.
Merci. qui était journaliste, est venue en Abitibi. Mm-hmm. Et qu'elle a écrit justement dans ces années-là sur cette communauté extraordinairement étonnante par rapport au reste du Québec. C'était un lieu de... Donc, c'est lié à la grande histoire. Par exemple, la Shoah qui est là. Moi, je me souviens d'un monsieur qui avait son numéro sur le bras à Val-d'Or.
Donc le on train, dit.
Oui. Oui. Et ça, c'était difficile. Ben, je sais pas, c'est intéressant aussi parce que travailler ça, ça a été tellement travaillé, c'est pas évident de reprendre ce filon. Mais là, il fallait qu'il y ait une histoire. Puis je me suis aperçue, mais ça, c'est des choses qui arrivent dans l'écriture. Je me suis aperçue que j'étais pas capable de briser cette famille. Au fond, ils sont tous rescapés. Ils sont bien chanceux parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Mais j'étais pas capable de... C'était comme si je pouvais pas... Alors, je me suis arrangée. Puis comme c'est en Hongrie, c'est comme ils sont partis très tard dans les camps. On a des histoires. Appelfeld raconte comment il s'est caché dans la forêt. pouvais pas te cacher pendant 4 ans, mais tu pouvais te cacher pendant 10 mois. Alors, j'ai fait ça, puis ils vont tous se retrouver. Bon, avec les catastrophes qui suivent, mais... Ouais, ça aussi, c'était pas évident de repasser par là, puis je voulais que ça soit... que ça explique pourquoi elle donne son enfant aussi au monde catholique. Il n'y avait pas d'autre raison que... Et puis en Abitibi, ma mère disait toujours ça, ici, les filles-mères sont enceintes sur la 3e avenue, ça ne dérange personne.
Oui, alors ça, c'est très étonnant. On le sent beaucoup dans ce que tu dis, quand tu parles de l'Abitibi transmise par les parents. Donc, se rencontrer à Val-d'Or et y avoir bien du plaisir, et que ce soit très différent des autres endroits du Québec de la même époque. Mais on le sent aussi quand même dans le roman. Ça passe dans le roman. Cette espèce de lieu qui, bien sûr, se confronte à l'époque ailleurs, mais où il y a une beaucoup plus grande liberté, du fait de l'éloignement, du fait de la dureté aussi, de l'économie, de la prospérité. Enfin, il y a comme des conditions un peu différentes.
C'est pas pour rien que j'évoque Babylone.
Ben oui.
Parce que dans le récit de mes parents, puis même moi, dans mon enfance, l'été, c'est les motards qui débarquaient à Val-d'Or. Nous, on était au chalet, et ma mère restait avec nous 2 mois et demi, elle sortait pas de la forêt. Mais mon père venait travailler à Val-d'Or, donc on était à 20 kilomètres. Et il y a des moments de l'été, la 3e avenue, c'était les bicycles. C'était les motards qui envahissaient la ville. Et là, bon, c'était pas... mais c'est ça. Et puis, ça a été une période. Il y avait des règlements de compte tout à coup dans la forêt. Et puis, voilà, ça faisait les manchettes, mais pas plus que ça. Mais les filles-mères, qui étaient si... on a tellement entendu d'histoires d'horreur au Québec. Eh bien, l'idée, tout à coup, je me suis dit, si elle a entendu parler de l'Abitibi et tout ça, pourquoi est-ce qu'elle n'irait pas accoucher là? C'est l'endroit où tu pouvais accoucher en paix et ne pas être jugée. Il n'y avait pas d'orphelinat. Donc, on donnait les enfants ou... Et il y avait des filles-mères. Moi, je me souviens que Gilbert parlait des filles-mères. Elle s'occupait des enfants. Et donc, on est dans les années 60. Donc, c'est ça la grande histoire, et je dirais la petite histoire qui me semble tout à coup se rejoindre là sur un territoire. L'Église était là. Moi, évidemment, quand j'arrive à l'école en 65, ça finit, là. Mais c'était quand même l'école catholique, il y avait l'Église. Mais on était déjà, on va connaître les messes à gogo, là. À partir de là, on dit, bon, je pense que c'est pas mal fini.
Oui, quand tu le racontes dans le... Il y avait une messe comme ça dans Jonas,
avec
les guitares électriques.
Oui, c'est ça. Et c'était un peu la façon de construire une causalité au fait qu'on donne un enfant juif en disant « je veux une famille catholique ». Je me disais « qui peut vouloir ça sinon
Mais en même temps, que là, tu réponds sur le terrain de la vraisemblance, au fond, et on voit bien que dans cette histoire-là, il y a une vraisemblance historique qui est pensée, la Hongrie plutôt que d'autres territoires européens où ça n'aurait pas été possible. Mais au fond, l'histoire de Jonas, quand nous, on la termine comme lecteur, la vraisemblance importe assez peu.
Oui.
Puisque c'est l'enfant de l'Abitibi, là. C'est, avec toutes ses mères, avec tous ses pères, avec l'enfant... Son savoir talmudique, inconscient. Donc, il y a aussi cette tension dans Jonas continuellement entre quelque chose qui tient du mythe, c'était notre hypothèse, mais on pourrait dire du conte, et puis la question plus réaliste, c'est l'enfant du conte, mais en même temps, c'est aussi l'enfant qui se fait brasser, c'est l'enfant victime d'intimidation, pour dire le moins.
Oui.
Mais on est un peu comme l'Abitibi aussi, c'est l'Abitibi minière, avec les fortunes qui se font rapidement, enfin tout ce que tu viens de raconter, mais c'est aussi le grand désert où les eaux vont se mélanger. Donc on est un peu entre les deux modes de lecture, tantôt alimenté historiquement, et petit à petit dans nos têtes, il y a une Abitibi qui se construit.
Ouais. Mais effectivement, le personnage de Jonas, c'est un personnage de conte. Par exemple, ses méditations, ses transes dans l'enfance, etc. Bon, ça, c'est inventé. Comment il va être ressuscité par l'Algonquin, comment il se décrit lui-même. Bon, moi, j'ai connu enfant un gars qui était une bolle en maths, qui disait qu'il faisait des voyages... Il nous racontait un voyage astral qu'il avait fait. C'est tout, je suis partie de ça. Je ne connais plus cette personne. Je n'ai jamais su vraiment ce que pouvait être un voyage astral. Je me suis dit, bon, allez. Et donc ça, effectivement. Et puis, comment il raconte à la fin, à la femme de Aaron, c'est elle qui raconte que Jonas lui a raconté, comment il était pris dans une pensée obsessionnelle, en fait. Bon, puis elle essaie de décrire ça, la narratrice. Donc, voilà, j'emprunte. Et là, je me dis, bon, comment écrire? Parce qu'il est un peu fou. Il a passé une partie de sa vie enfermé. Et puis, c'est comme la découverte du Talmud qui va l'arracher à la folie. C'était ça un peu l'idée. Alors, est-ce que c'est vraisemblable ou non? Moi, c'était ma manière à moi de montrer que la logique talmudique peut saisir un esprit qui était déjà là-dedans. Et qui, parce qu'il était tout seul et qu'il n'y avait aucune référence, ben, était fou. Et puis, à partir du moment où on l'inscrit dans une tradition et puis tout ça fait sens, ben voilà, il...
Juste brièvement, mais tu as dit, j'ai voulu le plonger dans l'eau, Jonas. Et plonger dans l'eau, c'est baptisé.
Oui, t'as raison.
Alors, plusieurs fois, tu as dit, Jonas, c'est, on l'a dit aussi en séminaire, c'est une des choses qui est sortie, c'est une méditation sur l'eau. Et tu l'as dit comme ça, le plonger dans l'eau. Alors, est-ce que il y a quelque chose de ce compte tenu de l'importance des noms, de la Genèse?
Je crois que oui, que c'est peut-être mon rapport au judaïsme qui vient de là, puisque je n'ai aucune velléité de devenir religieuse ni de me convertir. Mais que ce qui m'intéressait, c'est... Là, je réponds, j'improvise, parce que je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, et ça me permet d'associer sur des choses qui me semblent très importantes, justement, dans mon rapport à la fois à Jonas, ce personnage-là, mais au Jonas biblique et à la Bible. Jonas, c'est le prophète des nations. C'est ça aussi qui m'intéressait. Ce Dieu biblique, qui est bien sûr au départ le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui va sauver toutes les nations. Hein? C'est comme ça. Puis après, le christianisme va évidemment s'arrimer là-dedans, et c'est grâce à Paul que le message va transfigurer complètement, mais tout de même répandu, le texte va être transmis. Et au fond, la question pour moi se posait... Comment parce que moi, quand je suis allée faire de l'hébreu, ça remonte à 95, je suis allée faire de l'hébreu, c'est Freud, au fond, qui m'amène autour de ça. Mais aussi Hubert Aquin, qui travaille la Bible, l'antiphonaire, etc. Moi, j'ai pas eu une culture religieuse. En première année, j'ai un cours de religion. Et après, c'est fini. Après, on avait des cours de sciences morales, puis n'importe quoi, là. Bon, ça partait dans tous les sens. Je n'ai pas lu la Bible à l'école, puis on lisait pas la Bible comme catholique à l'église, ou bon. Je découvre donc sur le plan littéraire la Bible, et ma formation biblique, elle va être hébraïsante et talmudique avec les rabbins ici. Et ma familiarité, c'est-à-dire, moi je suis arrivée là, je me suis assise, je suis chez moi, parce que ça rejoint beaucoup la logique du rêve de Freud, ça rejoint beaucoup de choses que la psychanalyse, j'étais vraiment imprégnée de ça, et je me disais, moi je comprends tout de suite cette logique-là. Et comment hériter de ça, parce que là j'associe sur être baptisé, c'est-à-dire comment hériter de ça, comment être juif par l'esprit, si on peut dire, tout en étant de tradition catholique et d'héritage catholique, parce que je l'assume aussi, mais bien que laïque. Et au fond, mon personnage de Jonas, c'est vrai que c'est ça, qui va être baptisé. Et circoncis, alors ça je trouvais ça drôle, parce que les garçons de ma génération au Québec... ont connu la circoncision hygiénique, beaucoup, beaucoup. Alors, du coup, je me suis dit, bon, on est sauvés, parce que là, c'est pas vrai que je vais se faire circoncire à l'âge adulte, il y a quand même des limites. Mais comme je voulais qu'il entre tout à fait dans le monde juif et qu'il se retrouve pendant une année, je vais dire, il va faire le tour du calendrier dans une vie juive pleine, voilà. Mais c'est peut-être ce dialogue-là qui me semblait intéressant. Et puis Jonas, c'est celui qui est appelé, alors c'est pas n'importe quel prophète, parce que Dieu lui dit, tu dois aller, non pas convertir religieusement, mais faire teshuva, c'est-à-dire leur faire revenir sur la loi morale, un peuple qui va te détruire dans 2 siècles. C'est la Syrie. Ninive, c'est la ville qui va finalement détruire tout le royaume du Nord. Et donc le texte est construit que Jonas sait déjà que Ninive va détruire Israël. Et donc, lui va être appelé à aller dire à ce peuple, convertissez-vous, sinon Dieu, convertissez-vous à la loi morale, sinon Dieu va vous détruire. Et il dit, c'est la fin ironique du texte, c'est que on dit les gens ne connaissaient ni leur gauche ni leur droite, et puis il y a une ironie, même les chevaux puis les ânes se font teshuva, bon, etc. Si vous lisez les prophètes, le peuple d'Israël ne fait jamais teshuva malgré toutes les menaces que les prophètes vont leur donner. Ils se convertissent pas du jour au lendemain. Et on pourrait dire, Jonas sait que c'est une conversion par la terreur. Alors, c'est pour ça qu'il s'assoit à la sortie de la ville, puis qu'il le regarde, puis qu'il est furieux. Puis il dit, je sais que tu es un dieu magnanime, tu vas, juste ça, tu vas leur pardonner. Alors qu'on sait que c'est une fausse... Bon. Alors là, on a ce rapport, là, Jonas me permettait de faire, en fait, ça va parler, les nations, aller à Ninive. Et Ninive, c'est le représentant de ce que la Bible appelle les 70 nations, c'est-à-dire, bon, l'humanité au complet. Et je me disais, Val d'Or, c'est Ninive.
Ah oui, c'est très clair.
Voilà. Et le plonger dans l'eau, effectivement, c'est le juif baptisé qui redevient juif. Mais c'est aussi moi, qui ne suis pas devenue juive pour autant, je ne peux pas me convertir, mais qui, dans l'esprit, me reconnaît beaucoup dans cette tradition, qui m'aide beaucoup à penser la littérature. Moi, je trouve là, dans c'est millénaire, au fond, les commentaires talmudiques, et cette manière de commenter les textes m'enseigne beaucoup. Ce que j'ai fait, par exemple, dans « Tu ne te feras pas d'image », me permet de lire des textes d'une manière dont on les a pas lus, de la manière qu'on n'a pas lu. Donc, Sarot, avec la fonction de Tselem, hein, à l'image de Dieu, bon, etc. Comment les commentaires qui ont été faits sur des siècles éclairent tout à coup. C'est moi qui fais le lien, mais tout de même. Alors, je ne sais pas si ça répond. Mais en fait, le processus de le replonger dans l'eau, c'est comme, bon, c'est comme le baptême du Christ, pourrait-on dire. Hein. C'est le ramener aussi à sa judéité. Bon, on ne sait pas ce qu'il en fera, le roman. Et puis la fin, c'est aussi la fin au camp, et donc, on pourrait dire, le moment un peu mystique, qui faisait que... Parce que le cadre narratif, pourquoi il vient lui demander à elle de raconter cette histoire? Sinon, parce que, dit-il, justement, toi, tu vas pouvoir raconter ça parce que, bon, peut-être que tu vas entendre. Et au fond, la fin, il y a quelque chose qui donne à la narratrice sa condition mystique, elle aussi, c'est-à-dire cette arrivée de la voix qui arrive du ciel dans la solitude absolue de l'île déserte. Le Léviathan, bon, bref.
Voilà, c'est comme si ça l'autorisait un peu respectivement à être dans cette rétrospectivement, ouais. À être dans cette position-là. Ouais. Ouais. Je veux aussi attirer l'attention sur un autre point formel dont tu as parlé, c'est la question des voix et de l'interprétation. C'est-à-dire, non seulement il y a deux personnes, parce qu'il y a la narratrice, c'est comme sous contrat d'une manière ou d'une autre, mais il y a aussi la discussion sur ce qui se... La réflexion métatextuelle sur la nature de la voix, sur la nature de l'interprétation. Oui. C'est ce qu'il veut dire, ou c'est ce qu'il croit qu'il dit.
Oui.
Et ça, c'est commun, à mon avis, depuis le tout début, depuis le tout premier roman, mais c'est très fort dans Jonas. C'est-à-dire que c'est jamais... Raconter l'histoire, c'est emprunter l'histoire de l'autre, mais elle disparaît jamais sous celle de la narratrice.
Non, c'est ça.
Ça reste très dialogique, finalement. Oui.
C'est-à-dire, l'idée, pour moi, le défi, c'est qu'il ne faut pas traduire l'histoire dans mon histoire.
C'est ça.
C'est comment ça. Son histoire la plus singulière me rejoint sur... Donc, c'est pour ça que c'est une histoire. Et puis, quand Aaron... Lui aussi, pendant qu'il joue du violon, c'est Aaron qui parle. Tu m'as dit ceci, tu m'as dit, ne nie pas, hein, moi je sais, tu me l'as raconté comme ça, etc. Après, on a la femme d'Aaron qui va dire, il m'a raconté ceci. Chacun re-raconte l'histoire à partir du récit de Jonas. Et cette dimension d'interprétation, pour moi, est fondamentale. C'est-à-dire, on fait du sens. C'est-à-dire, on est tenu, il n'y a pas de sens déjà là. C'est la même chose que j'évoquais tout à l'heure sur le territoire. Le territoire n'est pas déjà là. Il faut le conquérir. Ouais.
Mais Jonas aussi invente son histoire.
Oui.
Jonas ment, puis Jonas est toujours en train de se raconter lui-même. Donc c'est pas
l'histoire. Il ment où? À quoi vous pensez?
Personne ne croit Jonas.
Oui.
Personne ne croyait Jonas.
C'est un menteur de vérité. En fait,
Il raconte lui-même...
des trucs incroyables.
C'est déjà une histoire d'histoire, ce que Jonas raconte. Donc, c'est pas... ce que la narratrice raconte, c'est pas trahir une histoire, c'est raconter ce qui est déjà raconté.
Oui. Mais ça, c'était une contrainte, le mensonge de Jonas. Parce que un des arguments, le seul central de Jonas biblique à Dieu, c'est qu'un prophète de vérité ce qu'il a prévu se réalise. Si ce qu'il a dit ne se réalise pas, c'est un prophète de mensonge. Or, Jonas sait très bien qu'après avoir dit à ce peuple « Revenez à la loi morale, sinon la ville va être détruite », ils vont revenir à la loi morale apparemment, et Dieu va leur pardonner, et il dit « Moi », ça c'est dans les commentaires, « Et moi, je serai un prophète de mensonge, et je ne peux pas supporter ça », donc il est furieux. Et là, je me suis dit, bon, et puis il y avait cette blague à un moment donné que je raconte, qu'on trouve dans les commentaires, l'histoire de... Ben, c'est-à-dire que là, je jouais chaque fois sur... Il fait des prédictions qui ne vont pas s'accomplir parce qu'on ne fait pas ce qu'il a dit de ne pas faire. Alors, je jouais... Pour moi, Jonas ne ment pas, mais il est menteur de vérité, à savoir qu'il est effectivement en train toujours d'annoncer des catastrophes qui... Comme ce rabbin là qui dit que le train qui est parti ne fasse pas d'accident, puis on dit un grand miracle s'est produit, il n'a pas fait d'accident. Bon. C'est un peu toujours cette tournure qui me semblait. Puis là, je l'ai joué sur plusieurs... Parce que ça, c'était vraiment, bon, comment je vais composer, qui est un prophète de mensonge, alors qu'il ne ment pas. Mais, bon, puis quand il dit « Je m'appelle Jonas », il faut que ça rapporte.
Oui, là, ça c'est bon. Aussi, ça. Bon.
Donc, c'était aussi mon défi de faire entrer. Ben, voilà.
Oui, allez-y.
Lorsque vous dites que c'est l'écriture qui crée le réel, ou que c'est la symbolisation qui crée le réel, vous avez insisté justement pour cette perspective-là, selon vous, en tant que sujet, comment ça vous fait advenir en tant que sujet, comment l'écriture vous donne consistance. Mais comment vous concevez ce rapport-là par rapport au lecteur, à la lecture? Parce que vous avez dit plus ou moins la même chose d'Aquin, c'est-à-dire que c'est, pour Aquin, c'est l'écriture qui fait advenir le réel. Donc j'imagine qu'il y a une tension-là entre ce que vous avez appris chez Aquin et puis ce que vous faites, votre pratique à travers l'écriture.
Oui. Mais c'est-à-dire que je peux le parler sur un plan personnel vécu, mais au fond, ce que j'essayais de dire, par exemple, chez Aquin, c'est structurel dans le roman. Hein? Et donc, je pense à Trou de mémoire, par exemple, lorsque R.R. arrive et ajoute une page, on pourrait dire, bon, on arrive le lendemain, puis on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc qui n'a pas... Et pas du tout, Pierre-X Magnan va dire, je ne peux pas retirer ce passage, et à partir de maintenant, voilà. Et alors, c'est Aquin qui le travaille structurellement et qui me semble mettre en lumière un principe psychique. C'est là où je dis, et il y a beaucoup d'écrivains qui le font, j'évoquais Duras, tout à l'heure, avec son fameux chinois. Je pense aussi à ces écrivains qui sont devenus le corps de leur texte. Alors, il y a Proust, hein, qui devient finalement... Alors, il est dans son lit. Il va, donc, toute son écriture devient... Mais Céline, Louis-Ferdinand Céline aussi, qui va devenir cette loque après les pamphlets, c'est-à-dire totalement identifié aux déchets de l'histoire, qu'il veut assumer parce qu'il dit « c'est le seul lieu d'où je vais pouvoir parler ». Comment l'écriture fait retour sur le corps de l'écrivain? Guyotat raconte ça de manière, mais lui, dans une souffrance que je trouve tellement admirable, mais raconte comment, quand il publie ses textes absolument illisibles, les moments d'angoisse qu'il a eus, bon, les premiers textes, entre autres, et comment cette écriture le tue. Alors, il y a des expériences d'écrivain, et puis il y a des formes d'écriture qui produisent... je dirais que comme lectrice, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Pas nécessairement par rapport au corps de l'écrivain, ça, là, je donne des exemples très précis, mais par rapport à des structures narratives singulières. J'évoque Proust, La recherche du temps perdu, c'est beaucoup ça. À la fin, je vais écrire le livre que maintenant, tout le parcours, voilà. Maintenant, mon histoire existe, nous allons écrire le livre. Or, on vient de le lire. Bon, voilà, c'est classique. Mais c'est quelque chose qui correspond effectivement à une expérience, moi je dirais sensorielle, psychique, alors qu'on rejoue sur différents tableaux. Je m'associais beaucoup à Joyce, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et que je suis pas arrivée à lire jusqu'au bout quand on parle de Finnegan's Wake, là, et auquel je m'identifie pas du tout comme personnage, mais quand il réécrit Ulysse, il y a quelque chose de ça dans le travail qu'on fait, c'est-à-dire de prendre effectivement un corpus classique éminemment connu, et de dire, voilà, je le transpose dans le réel, et qu'est-ce que ça va donner, donc, avec pour le lecteur des effets de on appelle ça l'intertexte, mais c'est plus que ça, c'est-à-dire des effets de profondeur, absolument. Et lui qui disait, j'aimerais qu'on m'interprète pendant 400 ans, moi, j'écris pour que, finalement, on puisse travailler dans les universités. Mais je ne sais pas si je réponds, mais disons que du point de vue du lecteur, beaucoup plus que du point de vue du rapport au corps de l'écrivain, qui est quand même un aspect, c'est quelque chose qui concerne la structure narrative. qui m'intéresse. Et par exemple, dans La Pisseuse, je jouais beaucoup là-dessus. J'étais encore très aquinienne et j'avais beaucoup joué sur justement comment chacun... Alors, il y a un personnage qui fait un film. On ne peut même pas l'appeler la narratrice parce que tout le monde est narrateur dans ce texte. Mais donc, la femme est appelée à produire une scène manquante à un film. Et au fond, elle envoie des choses qui sont toujours irrecevables et dont il ne peut jamais se défaire et qui produisent du sens pour lui. Voilà, ça, ça m'intéresse. Comment ce qui nous arrive, qui ne nous est pas nécessairement destiné ou qui parfois nous est renvoyé de manière, j'allais dire perverse, c'est-à-dire on t'envoie quelque chose, mais pas pour te faire du bien. Comment tu peux, comme au judo, comment t'en fais quelque chose? Et point de vue de la psychanalyse, c'est intéressant parce que moi, comme professeur, j'entends des histoires, je me dis toujours, mais moi, j'ai eu un destin quand même relativement... Il y a de l'amour autour de moi. Bon. Mais, vous le savez, les histoires de chacun sont... Et comment on fait avec ce qu'on a reçu? Parce que là où c'était, je dois advenir. Oui, mais quand là où c'était était catastrophique? Parce que moi, c'est pas catastrophique, c'est muet. Bon, c'est très doux. C'est, comment dire? Il y a une misère. Mais on survit. Puis on arrive à la parole, puis là, ben, on arrête de parler.
C'est le grand mystère quand même, ça, parce que les différents là d'où chacun vient, ouais. Pourquoi les uns survivent alors que
exactement.
Ça paraît impossible, et pourquoi les autres survivent pas,
ouais.
Ce qui prouve bien que le territoire,
ouais.
Il n'est pas donné.
Oui, et comment on est très sujet de son histoire, c'est ça qui est... À une époque où on veut déresponsabiliser tout le monde, où la victime est toujours absolument victime, c'est devenu très difficile de renvoyer à quelqu'un qui a beaucoup souffert la part qu'il a prise
dans la souffrance.
Et la psychanalyse fait ça, c'est extrêmement scandaleux, la psychanalyse. Et fait ça, mais il faut le faire bien, c'est-à-dire c'est pas juste de dire, ben là, c'est de ta faute, c'est pas de ta faute, mais qu'est-ce que tu peux faire à partir de ça? Et qu'est-ce que tu as déjà commencé à faire que tu nies? Que tu penses ne pas être de toi, par exemple. Bon. Alors voilà, tout ça, c'est, oui, ça me nourrit. Donc,
Stéphanie, est-ce que vous avez, Stéphane, les deux Stéphanie qui travaillent ce roman-là dans leur mémoire de maîtrise, est-ce que vous avez des questions? Bon, oui, je pense que Stéphanie en a une.
Oui,
non. Ben, on va libérer Anne-Hélène qui en plus a cours ce soir et ça sera une grosse journée. Donc, mais juste pour conclure quand même, en t'écoutant, je me dis, en t'écoutant et en pensant au séminaire, je me dis que finalement, c'est vrai l'Abitibi que le, c'est-à-dire les récits qu'on lit sur l'Abitibi construisent une Abitibi à laquelle moi je commence à croire là. Donc c'est tout, exactement ce dont tu parles. Et que on commence à voir aussi comment différentes œuvres la constituent. Et il me semble que la tienne occupe une place très très singulière et que ce que tu as dit aujourd'hui le confirme, qui est vraiment celle de la question de l'écriture. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'Abitibi va survenir et être redonnée, comme le jour de Kippour, hein, tu l'as dit, au bout de l'écriture. Et qu'on ne peut faire que ça devant cette démesure-là. Et avec cette...
Moi, je dirais l'écriture fait... L'Abitibi fait écrire.
Oui.
Et j'avais un collègue à l'UQAM qui disait... Oh, j'ai connu plein de gens qui viennent d'Abitibi. Ils ont tous un supplément d'existence. Alors, j'avais fait... Ah, ça, c'est bon. Mmh. Alors, Raoul Duguay, oui. Richard Desjardins, sa sœur,
oui,
qui
oui.
écrit...
Oui, oui.
Des personnalités un peu, c'est ça, un peu ensauvagées,
oui.
un peu... évidemment, Raoul Duguay, c'est quand même... Moi, je viens de l'Abitibi.
Ouais.
C'est
oui.
bon.
Oui, c'est vrai,
ça place
très
les gens. Mais qui a été un personnage aussi avec l'infonie.
L'infonie,
c'est
oui.
ça.
Oui.
Bon, j'imagine qu'il y a d'autres territoires mythiques...
Oui, mais il y a quand même des choses très particulières que les différentes esthétiques qu'on observe et qui se nourrissent de ce lieu-là confirment. De façon assez bizarre. Je veux dire, l'écho se fait pas tout seul, mais il me semble que ça confirme des choses là sur l'esprit des lieux, la hantise des lieux. Bon, toute la question des dates, hein, la fondation récente, les années 30, enfin, il me semble que tout ça...
C'est tellement neuf, en fait. Et en même temps, c'est un territoire ancien, c'est 6000 ans d'existence.
C'est ça,
on sait
ça,
que les... les peuples, les premières, les premiers peuples étaient là. Alors ça, c'est quand même aussi, voilà.
Merci beaucoup.
Ben, merci à vous, merci.
Daniel a dit.